Vous êtes sur RTL.
Toute l'équipe de nos petits matins. Comment commémorer l'assassinat du professeur Samuel Paty? C'était il y a un an à Conflans-Sainte-Honorine, et le fait de poser la question rend d'ores et déjà compte du malaise qui entoure cette célébration. Malaise bien perceptible dans le reportage que nous propose Valentin Boisset dans l'établissement où enseignait le professeur d'histoire-géographie. Parents, élèves, corps enseignants, personne ne semble préparé. Pour tout dire, c'est une forme de malaise réel qui domine, à tel point qu'on peut se poser cette question. L'assassin a-t-il gagné et notre système de valeurs est-il perceptible? Rendez-vous à 7h15 pour le reportage à Conflans. Et nous écouterons ensuite le professeur d'histoire-géographie, Yanis Roder. Il est membre du Conseil des sages de la laïcité et de la Fondation Jean Jaurès. Dans un tout autre registre, l'invité de Benjamin Sportouche à 7h40. Une forme de petit génie, puisqu'Aurélie Jean est docteur en sciences numériques. Elle cumule un nombre de diplômes astronomiques et pose une question tout à fait passionnante dans notre société numérisée. Les algorithmes font-ils la loi? C'est le titre de son livre qui paraît aux éditions de l'Observatoire. Rendez-vous donc à 7h40. Enfin, sachez qu'à 8h20, nous serons avec le fondateur du groupe marseillais Ayam, Akhenaton, tout cela à 2h de la cérémonie en hommage à Bernard Tapie, en la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille. Nous sommes le vendredi 8 octobre 2021. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, ces soupçons de violences sexuelles dans l'une des plus prestigieuses écoles de France.
À Centrale-Supélec, école d'ingénieurs, une centaine d'étudiants affirment avoir été victimes de viols ou d'agressions sexuelles. La justice ouvre une enquête. La remontada des Bleus hier soir face à la Belgique, menée 2-0 à la mi-temps, ils s'imposent 3-2. Dans ce journal, de meilleurs soins pour nos yeux, enquête RTL ce matin, les délais pour un rendez-vous chez l'ophtalmo raccourcissent. Des logements vides et pourtant des étudiants qui squattent comme ils peuvent depuis la rentrée. La Rochelle va taxer les propriétaires atteints, entre autres, du syndrome Airbnb. Et puis la disparition d'Étienne Moujotte, qui a fait les grandes heures de TF1. Vous entendrez l'hommage de Julien Courbet, qui salue un seigneur de la télévision.
La politique, Olivier Bost.
Et avec justement le fait politique le plus important de la semaine, qui n'a pas été le plus commenté.
On se retrouve dès la fin du journal.
RTL Matin.
Les dirigeants de l'école d'ingénieurs Supélec ont été effarés en découvrant les résultats de cette étude sur les violences sexuelles menées auprès de 2400 de leurs élèves. 28 étudiants affirment avoir été violés au cours de l'année écoulée. 71 autres dénoncent également avoir été agressés sexuellement. Dans 9 cas sur 10, ils disent avoir été victimes d'un autre étudiant. Alors ces signalements sont anonymes, mais la justice a décidé maintenant d'ouvrir une enquête. Aurélia Valarié, vous avez rencontré des étudiants choqués également sur le campus.
Au pied de sa résidence étudiante, Samy vient tout juste de sortir de cours. Il est en deuxième année à Centrale-Supélec et il a encore du mal à comprendre.
Moi, ça me surprend beaucoup. Il y a 28 viols sur un an, c'est énorme. Ce qui est choquant, c'est la différence entre le nombre d'actes qui ont été rapportés à la direction, c'est-à-dire zéro, et le nombre de viols qui sont mentionnés dans l'étude.
Un peu plus loin, penchée à la fenêtre de sa chambre, Lauriane a son téléphone à la main et elle relit les chiffres de l'enquête.
Je m'en doutais qu'il y avait pas mal de monde, mais à ce point-là, je m'en doutais pas. Oui, c'est angoissant, mais c'est toujours mieux d'avoir des enquêtes qui sont très claires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte, quoi. Alors que pour certaines filles, bah, c'est le quotidien d'avoir des mecs qui draguent lourdement et d'avoir parfois une main qui se balade là où on n'aurait pas forcément envie ou des choses comme ça, quoi.
Pour Étienne, malgré les résultats alarmants, cette enquête était nécessaire.
Pour se rendre compte de ces états de fait-là et puis pour mieux identifier le contexte dans lequel ces actes se produisent pour pouvoir agir dessus.
Étienne retrouve ses amis et le groupe d'étudiants est d'accord, ils seront plus attentifs aux autres pendant leur prochaine soirée.
Reportage d'Aurélia Valarié, la direction de l'école appelle les étudiants victimes à se signaler. L'école de la République rendra hommage à Samuel Paty vendredi prochain. Après les cours, les enseignants pourront, sous la forme qu'ils veulent, rassembler les élèves pour un temps d'échange. À Conflans-Sainte-Honorine, dans le collège de ce professeur d'histoire assassiné par un terroriste islamiste il y a un an, certains parents appréhendent ce moment, les enfants restent traumatisés, ils s'inquiètent également pour des questions de sécurité. Vous l'entendrez avec le reportage de Valentin Boisset pour la brigade RTL juste après ce journal.
Bref, la situation n'est pas claire du tout et nous en parlons avec Yanis Roder, professeur d'histoire-géographie dans le 93 depuis plus de 20 ans. Il est aussi directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès.
Les obsèques de Bernard Bernard Tapie seront célébrés ce matin à 11h en la cathédrale de la Majore à Marseille. Hier, ce sont des milliers de supporters qui lui ont rendu hommage au stade Vélodrome avec l'image du cercueil au milieu du stade recouvert du drapeau marseillais et de la réplique de la Coupe d'Europe gagnée en 1993.
Il est 7h04, on en vient à cette enquête RTL et à cette bonne nouvelle pour nos yeux.
Oui, depuis des années, le manque d'ophtalmo posait problème pour la qualité des soins. Eh bien, le syndicat national de ces professionnels dévoile ce matin que les délais pour obtenir un rendez-vous ont été nettement raccourcis, Sophie Jousselin.
Oui, on a gagné 16 jours en 2 ans. Désormais, la moitié des rendez-vous sont obtenus en moins d'un mois, mais dans encore 3% des cas, il faut s'armer de patience. L'attente est de plus de 6 mois. La baisse est sensible dans presque toutes les régions, avec un record en Bretagne. Les délais se sont raccourcis de plus de 3 mois. Mais pour faire contrôler sa vue le plus rapidement possible, il est préférable d'habiter à Paris. Il y a 11 jours d'attente pour avoir un rendez-vous contre 83 à Montpellier. Ces progrès, ils sont dus à la collaboration des médecins avec les orthoptistes principalement, des professionnels qui effectuent la première partie de la consultation. Ils accueillent le patient, contrôlent sa vue. L'ophtalmologiste prend ensuite le relais pour l'interprétation des résultats. Il réduit ainsi de moitié la durée de sa consultation et peut voir plus de patients dans une journée.
Merci beaucoup Sophie Jousselin. Ça n'est pas encore le moment de lever le pass sanitaire. L'exécutif a tranché. Même si l'épidémie est sous contrôle à moins de 5000 cas par jour, mais dans une trentaine de départements, l'épidémie ne recule plus, voire repart légèrement à la hausse comme en Mayenne. La prudence reste de mise alors qu'il y a toujours cette crainte par rapport à la baisse des températures supposée favorable à la propagation du Covid. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin estime que toute personne ayant connaissance d'un crime sur enfant doit être déliée du secret. Le président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, a fait polémique, hein, précisément après avoir dit que le secret de la confession était plus fort que les lois de la République. Il se rendra d'ailleurs pour s'en expliquer mardi à 14h au ministère de l'Intérieur.
Le football et nos Bleus renversant hier soir face à la Belgique, menés 2-0 à la mi-temps. Ils ont marqué 3 buts ensuite pour s'imposer. On se retrouve dans un instant. Il est 7h06. Bonne journée à tous.
RTL Matin.
7h07, la suite du journal d'Olivier Bois. Le match a été magnifique hier soir entre la France et la Belgique.
Du jeu, du suspense, la victoire 3-2 à la fin pour les Bleus et une remontada comme on les aime, Philippe Sanfourche.
Oui, quel ascenseur émotionnel pour les Bleus, littéralement dans les cordes à la mi-temps, mené 2-0.
En souffrance, attentiste et pas capable de ressortir.
Didier Deschamps, inquiet, a dû bouger ses hommes à la mi-temps.
Question d'orgueil, de fierté. Oui, ça passe par des paroles, mais je suis là pour ça aussi.
Et visiblement, le message est passé. Kylian Mbappé, buteur et homme du match, symbole de la réaction collective.
On perdait 2-0, on était mal embarqués, mais on n'a pas lâché à la mi-temps. On s'est dit les choses et on est revenu avec des vraies intentions. Et on a marqué tout. Ça nous a donné de l'espoir. Après, à la fin, c'est complètement fou.
Le but de la victoire refusé aux Belges à la 87e minute, avant le tir de la délivrance, Théo Hernandez à la 90e minute. De quoi replonger les Diables Rouges de Thibaut Courtois dans le Somme. La déprime pour la deuxième fois après 2018.
C'est le foot, c'est comme ça. 2-0, c'est pas assez. En plus, contre une équipe comme la France, c'est comme ça, c'est dommage.
Les Bleus qui, à ce jour, n'ont jamais perdu face à la Belgique dans un tournoi international.
Merci beaucoup, Philippe Sanfourche. La France affrontera l'Espagne dimanche soir en finale de cette Ligue des Nations.
On en vient maintenant à ce dossier RTL et ces villes qui surtaxent les résidences secondaires.
Oui, à cause, entre autres, du syndrome Airbnb, des propriétaires qui préfèrent laisser une résidence secondaire vide pour la louer en saison au prix fort à des touristes. Résultat, les habitants à l'année ont du mal et de plus en plus de mal à se loger. Les centres-villes se vident. C'est ce qui se passe à La Rochelle qui décide donc à son tour de surtaxer ses résidences secondaires. Juliette Chénion.
Oui, difficile d'abord pour les 15 000 étudiants de la ville. Il manque 1 000 logements pour tous les héberger. Arthur, par exemple, en BTS Hôtellerie, cherche depuis 2 mois. Le Bon Coin et les agences n'ont rien donné. Les annonces disparaissent aussitôt apparues. Il dort donc chez des amis.
Ça fait 3 semaines que je dors sur un matelas gonflable au milieu d'un salon. J'envoie 3 messages par jour. J'ai dû faire 4 visites.
Même problème pour les jeunes actifs. Svetlina et son mari ont consulté déjà 15 agences.
Et toutes nous disent qu'il n'y a rien à louer, surtout qu'on cherche un T3 ou T4 dans La Rochelle.
La ville a donc décidé de majorer de 50% la taxe d'habitation des résidences secondaires. Thibaut Guiraud, l'adjoint aux finances, espère inciter 1200 propriétaires à louer leurs biens.
S'ils remettent par exemple leurs biens sur le marché locatif, ne serait-ce que 7 ou 8 mois pour des étudiants, ils n'auront plus à payer la taxe d'habitation, mais ils pourront bénéficier aussi de revenus locatifs et de leur maison en période estivale.
L'opposition parle d'une mesure utopique. Les propriétaires pourraient préférer la surtaxe à la location. Dans ce cas, cela ferait 900 000 euros de plus dans les caisses de La Rochelle.
Reportage de Juliette Chénion. Effectivement, une surtaxe de 50% à La Rochelle, ça veut dire 160 euros en moyenne supplémentaire par an pour les propriétaires. En bref, les chômeurs longue durée pourront bénéficier d'une prime de 1 000 euros s'ils se forment en entreprise sur les métiers qu'ils recrutent en ce moment. Annonce hier de la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Cela permettra aussi au secteur en tension de pouvoir recruter. On manque de bras en ce moment, par exemple dans la restauration ou encore dans le BTP.
Il fut l'un des grands artisans du succès de TF1. Étienne Mougeot est donc mort hier. Il avait 81 ans.
Oui, pendant 20 ans, de 1987 à 2007, il a été le tout-puissant patron des programmes de TF1. Il a mis à l'antenne, entre autres, un sacré soirée, Star Academy ou encore, sans aucun doute, de notre ami Julien Courbet qui lui rend hommage ce matin sur RTL.
C'était un homme d'instinct. Il m'est arrivé de vendre des émissions en 4 minutes montre en main dans son bureau. C'est-à-dire que je m'asseyais, je lui disais, voilà, je pense que si 2-3 arguments, il me regardait, ok, trouve-moi une date pour la faire. Et c'est tout, il n'en demandait pas plus parce qu'il sentait les choses. C'est un homme qui était extrêmement proche de ses animateurs. Dès le lendemain, je me rappelle, à 9h02, je savais que mon téléphone allait sonner. C'était Étienne Mougeot qui appelait pour me féliciter. Un seigneur, voilà. Il sentait la télé, c'était son truc.
L'hommage de Julien Courbet après la mort d'Étienne Mougeot au micro de Nicolas Fauroux.
Et on termine ce journal avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Vincennes.
Et les pronostics de Dominique Cordier, le 9, le 5, le 16, le 10, le 7, le 3 et l'As. La dernière minute, c'est le 5.
Olivier Bois. La politique tout de suite avec vous Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et pour vous, le fait politique le plus important de la semaine n'a pas été le plus commenté, il s'agit du rapport Sauvé sur les violences sexuelles dans l'Église.
Oui, alors il faut d'abord saluer ce travail gigantesque, douloureux et exemplaire de cette commission. Je vous rappelle les chiffres édifiants qui ont été dévoilés mardi. Plus de 200 000 enfants ont été agressés dans l'église par des prêtres et des religieux. 100 000 enfants ont été agressés par des laïcs au sein de l'institution. Des chiffres accablants, comme l'a expliqué Jean-Marc Sauvé, le président de cette commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église. Il a appelé à des mesures très fortes, une réforme profonde de l'Église.
Mais alors pourquoi cela serait-il en fait un fait politique ?
Eh bien par la réaction de l'Église d'abord, inquiétante depuis et même révoltante, et parce que le travail de la Commission Sauvé n'est qu'une étape dans un processus qui concerne toute la société, ce qui fait société et politique.
Alors prenons les choses dans l'ordre. D'abord cette réaction de l'Église.
Oui, le président de la Conférence des évêques de France estime que le secret de la confession est plus fort que les lois de la République. Selon ce principe, un prêtre n'est pas tenu de signaler des abus, des viols sur des enfants qui lui seraient livrés par une victime ou par son auteur. L'Église, au-dessus des lois de la République, c'est notamment sur ce fondement que l'institution catholique a protégé des prêtres pédophiles. Cela montre tout le chemin qui lui reste aujourd'hui à parcourir pour ne pas définitivement se déconnecter de la société. Et c'est désormais sous la pression politique, puisque le président de la Conférence des évêques de France a été invité par le ministre des Cultes, Gérald Darmanin, la semaine prochaine.
Alors, il ne faut pas s'arrêter non plus au rapport de l'Église et de l'État.
Oui, non, parce que le fait politique important, c'est une nouvelle étape, en fait, dans la prise en compte des paroles des victimes et dans la volonté d'en finir avec ce qui permet de cacher ces faits et de protéger les agresseurs. Et ça vaut pour toute la société et bien au-delà de l'Église. Plus de 5 millions d'adultes en France ont subi avant leur 18 ans une agression sexuelle ou un viol. C'est plus de 5 millions d'adultes. Dans la majorité des cas, dans leur famille ou de la part d'un proche de la famille, c'est l'autre lieu où peut s'exercer une domination sur les enfants. Une commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles dans toute la population a pris le relais. Elle a été lancée par le gouvernement et s'intéresse à ces 5 millions de victimes dans notre pays. Elle collecte déjà des témoignages par milliers sur ce phénomène massif. Ce travail viendra aussi chambouler d'autres institutions, la justice, la police et le gouvernement, pour ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait.
Et une fois de plus, on redécouvre, mais ça, personne ne veut l'entendre, que le lieu le plus dangereux de la société française est la famille. Merci beaucoup Olivier Bost. À 7h40, Benjamin Sportouche reçoit Aurélie Jean, elle est docteur en sciences numériques et entrepreneur. Elle publie « Les algorithmes font-ils la loi ?» aux éditions de l'Observatoire, un entretien passionnant à découvrir dans une petite trentaine de minutes. Dans un instant, nous serons à Conflans-Sainte-Honorine avec Valentin Boisset. Il y a un an, Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie, était tué à la sortie du collège après avoir montré les caricatures de Mahomet. Et à une semaine des hommages, vous entendrez une certaine crainte autour de cette célébration.
Yves Calvi, RTL Matin.
C'était il y a presque un an, jour pour jour, le 16 octobre, l'assassinat de Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie, tué après avoir montré les caricatures de Mahomet à ses élèves. Les commémorations sont en pleine préparation. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé hier qu'un temps serait consacré à l'échange autour de cet assassinat dans tous les établissements de France vendredi prochain. Mais à Conflans-Sainte-Honorine, lieu du drame, le malaise est encore présent. Il y aura une cérémonie le 16 en petit comité au sein du collège. Bonjour Valentin Boisset.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
La préparation du moment est difficile pour les familles des enfants du collège du Bois d'Aulne.
Oui, à une semaine de l'événement, le fils d'Estelle en quatrième au Bois d'Aulne est revenu du collège avec un papier. Il doit cocher une case, participe ou ne participe pas. Estelle vient d'apprendre l'existence d'un hommage dans le collège réservé aux élèves et aux professeurs.
Du jour au lendemain, bâtonnet, il va y avoir un hommage. On n'en parle qu'au mois d'octobre et bim, on se le remet dedans quoi.
Dans un premier temps, son fils ne veut pas y aller, des craintes d'abord psychologiques de revivre l'événement.
Le fait de reparler de la mort, tout ça, et ça fait un peu un choc émotionnel pour les enfants. Quoi.
Puis des craintes de sécurité. Les parents d'élèves ont demandé à ce que le dispositif de police soit relevé autour de l'établissement. Il est mieux surveillé depuis quelques jours, mais il a fallu batailler. L'organisation de l'hommage s'est faite sans réel dialogue, avec un programme encore flou. Laetitia Bellon représente les parents d'élèves. Ils ont écrit une lettre à Jean-Michel Blanquer.
Moins de 10 jours de l'événement, le désarroi est grand. Le manque de réelle communication s'est très vite fait jour, avec des informations strictement descendantes.
Ça, c'est une lettre pour le ministre.
Au ministre de l'Éducation nationale, parce qu'on se dit que l'organisation est très tardive.
Pour l'hommage de la municipalité, la communication est tout aussi discrète. Rien n'est officiellement fixé, mais selon nos informations, une marche blanche aura bien lieu le samedi 16 dans les rues de Conflans.
Alors des débats à Conflans, il y en a beaucoup. Comment rendre hommage alors que certains sont encore traumatisés? Et pour le moment, c'est la discrétion qui prime, Valentin.
Oui, discrétion. Pas de plaque devant le collège, pas de statue non plus, comme prévu un temps. Renommé le collège Samuel Paty, la famille du professeur n'est pas contre, mais pour beaucoup de parents, il y a la crainte d'être à nouveau une cible. Alors sur les groupes Facebook d'habitants, le débat fait rage. Il s'est même invité en plein conseil municipal. Raphaël Prats est dans l'opposition.
Ça peut aussi être un symbole plus tard, pas forcément à abattre, mais ça fait un sujet, parce que ça peut aussi stigmatiser quelque part le collège.
Conflans-Sainte-Honorine redoute donc le 16 octobre. Devant la sortie des cours, un père me confie hors micro. Je n'irai pas aux commémorations. Tout ce que nous voulons ici, c'est passer à autre chose.
Merci Valentin Boisset. Et bonjour Yannis Roder.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire-géographie depuis plus de 20 ans en Seine-Saint-Denis. Vous dirigez l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès et êtes par ailleurs membre du Conseil des sages de la laïcité. Est-ce que vous percevez clairement cette gêne, je ne sais pas, cet embarras à l'approche de la date de commémoration de l'assassinat de Samuel Paty ?
Écoutez, je crois que ça dépend réellement des territoires, des établissements. Dans le mien, par exemple, je ne perçois pas de gêne, pas du tout. Et au contraire, les enseignants réfléchissent actuellement à la manière de rendre hommage à notre collègue assassiné il y a maintenant presque un an. Donc je crois que c'est lié à certains territoires, à certaines ambiances. Je oui. crois aussi que c'est lié à certaines manières d'appréhender l'événement. Donc je crois qu'on a des situations très diverses.
Que voulez-vous dire en nous disant une certaine manière d'appréhender l'événement ?
Bah, peut-être une certaine lecture de l'événement, c'est-à-dire que on sait très bien que certains ont reproché hein, à notre collègue Samuel Paty la manière dont il aurait conduit son cours. D'autres ont reproché à l'institution de ne pas l'avoir soutenu. Bon, tout ça peut jouer, je crois, dans la manière dont on ressent aujourd'hui la façon dont nous pourrions commémorer cet événement.
Est-ce qu'on remonte vers vous des informations qui traduiraient une peur de représailles qui existe au sein de la communauté éducative?
Alors, non pas une peur de représailles, mais oui des informations comme quoi, dans certains établissements, il semblerait que certaines équipes pédagogiques ne veuillent pas tout simplement faire de commémoration, de peur simplement d'avoir à affronter les discours de certains élèves. Donc, c'est quand même quelque part, hein, ce serait la République, si cela est attesté, c'est la République qui recule. Et cela, de mon point de vue, c'est absolument inacceptable.
Ce serait une catastrophe. Mais d'ailleurs, les caricatures sont-elles toujours utilisées pour évoquer la liberté d'expression, la laïcité et le droit au blasphème, à votre connaissance ?
Oui, bien sûr. Les caricatures font partie, de toute façon, des documents qui sont étudiés en classe, que ce soit des caricatures historiques ou que ce soit des caricatures actuelles. Donc il n'y a pas de raison qu'elles ne le soient plus. Maintenant, il est évident que chaque professeur qui va utiliser des caricatures, et notamment des caricatures portant sur des questions religieuses, a en tête, malheureusement, ce qui s'est passé il y a un an. Et peut-être, c'est ce que nous montrait notre sondage de la Fondation Jean Jaurès réalisé avec l'IFOP en décembre dernier, Peut-être que certains s'autocensurent aujourd'hui.
Ça vous inquiète ?
Oui, ça m'inquiète parce que je ne crois pas que c'est comme ça que nous pourrions ou nous pouvons lutter contre ce qui nous arrive et contre ce qui est arrivé à notre collègue Samuel Paty. Je crois que c'est parce que nous sommes clairs sur nos principes, nous sommes forts sur nos bases, qu'au contraire, nous arriverons à lutter contre cela.
Je vois que vous avez un point de vue équilibré. Pour tout vous dire, moi, en entendant le reportage de Valentin Boisset à Conflans, je me suis dit, mais est-ce que l'attaquant, l'assassin, n'a pas gagné la partie ?
Quelque part, en écoutant le reportage, j'ai eu exactement la même réaction que vous, c'est-à-dire, voilà, on ne va pas aux commémorations, on hésite, on a peur, on est bon. Ce sont des choses qu'on peut tout à fait comprendre, mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que nous arriverons à vaincre ceux qui veulent nous détruire.
Merci beaucoup en tout cas Yannis Röder d'avoir pris ce matin la parole sur RTL. Je rappelle que vous dirigez l'Observatoire d'éducation à la Fondation Jean Jaurès et que vous êtes membre du Conseil des Sages de la Laïcité. Très bonne journée à vous.
À tout moment, écoutez RTL sur votre enceinte connectée en disant
« Alexa, lance RTL »
ou
« Ok Google, lance le live RTL ».
RTL,
partout,
tout le temps. RTL Matin, Yves Calvi.
Selon la formule désormais définitive et magnifique, il est grand temps de retrouver notre pépite musicale. Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors qu'avez-vous choisi pour nous ?
Alors au programme ce matin, une leçon d'anglais pour les enfants et le prof s'appelle Laurent Voulzy. Au début des années 70, bien avant de connaître le succès avec Rock Collection, Laurent Voulzy avait rencontré chez un éditeur une prof, Michel Marie, qui avait pour projet d'écrire une méthode pour apprendre l'anglais à base de dessins et de chansons. Laurent Voulzy lui avait dit « Ok, oui » pour composer toutes les musiques. Et sur une période de 2 ans, eh bien, le propriétaire des mythiques studios du château d'Hérouville leur a gracieusement prêté un studio. David Bowie d'ailleurs a enregistré à l'étage au-dessus. Voilà comment Laurent Voulzy, la prof et le musicien anglais Ian Gelfs ont enregistré 15 morceaux qu'ils chantent ensemble. 15 histoires un peu surréalistes. Alors on croise un crocodile dans une machine à laver, une grenouille sous un parapluie, un chat avec des lunettes, un oiseau qui mange le soleil et un éléphant qui joue du piano. Toutes les harmonies de Voulzy.
Oui,
voilà pour les animaux et les instruments de musique. Pour apprendre les couleurs et les habits, Big Black Boots. He's got big black shoes. He's got green t-shirts. He's got green t-shirts. He's got a pair of jeans. He's got a pair of jeans. A pair of jeans. What has she got? Voilà, et après un concert sur la Lune, eh bien les animaux retournent sur Terre en chantant « Goodbye the Moon ». Pop English, pour s'initier à l'anglais, tout en chantant, c'est pour les enfants 3-10 ans, ça fait pas de mal aux parents, c'est charmant, c'est totalement pop, c'est un album collector et inconnu de Laurent Voulzy. Les chansons étaient sorties en 1976 sur différents 45 tours, elles sont pour la première fois toutes réunies sur un vinyle qui vient de paraître et le disque Pop English est aussi disponible en streaming.
Formidable, merci beaucoup Anthony, on se dit donc à lundi.
À lundi.
Et à tout moment, podcast via l'appli. Dans quelques instants, nos grosses têtes et puis notre météo avec Marina Giraudeau que j'accueille et que je salue. Bonjour Marina.
Bonjour à tous.
Vous êtes munie d'un ravissant thermo rose de couleur rose.
Voilà, et j'ai un peu de soleil aussi.
Ah, formidable, à tout de suite.
RTL, revivre ensemble. RTL Matin,
avec Yves Calvi.
Je vais vous dire quand même que chez Julien, ce soir, on va aller préparer des petites quenelles sauce menthe.
Ça fait envie.
On est bien d'accord. Allez, on retrouve nos grosses têtes entre 15h30 et 18h. Aviez-vous remarqué des ressemblances entre Julie Leclerc et Caroline Diamant ?
On croirait deux sœurs jumelles.
Avec la frange blonde et les cheveux raides.
Vous allez chez le même coiffeur, toutes les deux ?
On est nés sous le signe des Gémeaux.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux.
Vu les postillons envoyés, il fallait chanter les parapluies de Cherbourg.
Et vu l'odeur, c'est c'est plutôt les demoiselles du Roquefort.
Oh, alors ça, Laurent. Vraiment.
Mission épouvantable, son charme. Ah oui, 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 absolument. Alors, rendez-vous dès 15h30 avec Titov, Jean-Benguigui, Caroline Diamant, David Boring, Florian Gazan et Marcella Yacoub. Marina, allez, on passe à notre météo. Elle est plutôt agréable et optimiste.
Oui, j'ai des bonnes nouvelles pour le week-end. Ça commence dès aujourd'hui. Si vous voulez faire une terrasse ce soir, par exemple, en région parisienne, c'est possible.
Vous voyez,
mais
ça
oui,
me tente.
Mais oui, les températures seront plutôt agréables. Alors, pour la saison, hein, donc vous prévoyez la petite laine quand même pour la fin de journée. Mais bon, on aura du soleil. Alors, j'y on aura parce que c'est souvent le cas à cette époque de l'année. Il y a quand même des plaques de grisaille. Alors, c'est soit sous forme de brumes et de brouillards. Mm-hmm. Pas nombreux, mais il y en a quelques-uns, des brouillards, notamment à Landivisio. Vous en avez à Lille, à Reims, à Auxerre, au Romorantin. Parfois, c'est doublé de passages nuageux, notamment de la Manche au Hauts-de-France, en allant vers la Loire, le Limousin, l'Auvergne et le Lyonnais. Tout ça va se dissiper. Oui. L'après-midi sera ensoleillé sur une grande partie du pays. Et même s'il reste quelques passages nuageux, ce sera dans un ciel bleu, notamment les passages nuageux qui pourraient résister vers l'Auvergne, vers le Lyonnais, la Franche-Comté et l'Alsace, mais voilà, c'est pas bien méchant. Là où les nuages sont un peu plus nombreux et ils donnent quelques ondées, alors c'est très faible, très localisé, mais il y a quelques ondées là sur la Haute-Corse.
Oh.
Il y aura... Quelle programmation.
Ils s'amusent en régie, ne t'inquiétez pas.
Oui. On sent que c'est vendredi. Hein. Donc il y aura encore quelques passages nuageux et quelques ondées sur la Corse, mais c'est pas bon non plus, bien méchant. Un petit mot du vent, parce que Mistral et Tramontane ont soufflé assez fort quand même ces derniers jours. Ça s'essouffle un peu, mais c'est... Mistral et Tramontane seront encore présents, puisqu'on a des rafales à 50-60 km par heure, du vent sur les côtes corse à 70. Et côté température, alors on se couvre ce matin là où le ciel est dégagé ou là où on a des brouillards. 2 degrés à Aurillac, 4 à Charleville-Mézières. Il fait 5 à Épinal, à Bergerac, on a 6 à Lille. 9,8 à Paris pour dépasser les 10 degrés. Direction les côtes de la Manche, les côtes atlantiques et les côtes méditerranéennes, puisqu'on a en ce moment 15 degrés à Saint-Brieuc et à Nice. Et pour cet après-midi, comptez 17 à Lille, 19 à Paris, 20 degrés au Mans. Il fera 24 à Ajaccio et Perpignan.
Vous êtes radieuse comme notre météo. Merci Marina Giraudeau. RTL, il est 7h30.
RTL Matin. Yves Calvi.
7h30, Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 8 octobre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et une question ce matin, faut-il lever le secret de la confession ? Question soulevée par le rapport Sauvé qui a dévoilé l'ampleur des pratiques pédophiles au sein de l'Église. Qu'en pensent les fidèles ? Mourad Djabari, vous êtes allé à leur rencontre à l'église Sainte-Marie des Batignolles à Paris.
Oui, la confession est un moment suspendu, sacré, où les mots exprimés ne doivent pas transpirer. C'est l'avis de plusieurs paroissiens de cette église.
Les secrets ne doivent pas être dévoilés. Pour moi, je trouve que c'est important. C'est comme le secret d'instruction, c'est la même chose. Hein. Dans la justice, c'est la même chose. Hein.
Victor considère le confessionnal comme un refuge, un endroit où le sceau du secret doit être préservé.
C'est l'endroit où les gens peuvent être conseillés, par exemple, de faire une thérapie ou de faire des démarches en disant « je suis coupable ». Et si on supprime ça, il n'y a plus cette étape qui peut être essentielle, qui peut aider beaucoup de gens. Mineur ou pas mineur, la confession est secrète.
Vous comprenez que cette position peut un peu choquer avec ce qui vient d'être dévoilé
Oui, ça peut choquer, oui. Voilà mon point de vue.
Mais alors que l'Église est en pleine crise, Nathalie pense qu'il faut aujourd'hui repenser la confession.
Je suppose qu'on peut à la fois préserver le secret de la confession en même temps, si une vie est en danger, si une personne est en danger. Si effectivement il y a une question de crime, là c'est au canoniste de trouver un moyen de sauver des vies en fait.
Briser le silence de la confession si un crime sexuel, par exemple, est avoué lors de cet entretien.
Mourad Djabari, de son côté, le président de la conférence des évêques a estimé que le secret de la confession était plus fort que les lois de la République. Déclaration assez mal reçue. Il est convoqué par le ministre de l'Intérieur qu'il doit rencontrer mardi. La parole se libère et pas seulement dans l'église. Le parquet d'Evry vient d'ouvrir une enquête préliminaire après la révélation d'une centaine de faits de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol au sein de la prestigieuse école d'ingénieurs Supélec. C'est l'école elle-même qui a réalisé un audit auprès de ses étudiants.
Dernier acte de l'hommage à Bernard Tapie, les obsèques sont célébrées ce matin à la cathédrale de la Major à Marseille.
Les supporters pourront accompagner une dernière fois leur boss dans une procession entre le Vieux-Port et l'église. Hier déjà, ils lui ont fait des adieux vibrants au stade Vélodrome. Le cercueil avait été installé au centre de la pelouse, recouvert des couleurs de l'OM. Sabria n'aurait manqué ça pour rien au monde.
Notre nanar nous a donné que du bonheur. Nous lui rendons tous hommage. À l'époque, j'avais 22 ans, c'était en 1993. Et aujourd'hui, j'ai transmis tout ça à mon fils. C'est à mes petits-enfants. Bernard, merci beaucoup. Tu es dans ta maison et tu resteras dans nos cœurs à jamais.
Propos recueillis par Étienne Baudu. Il aura été pendant 20 ans un dirigeant emblématique de TF1. Étienne Moujotte est décédé hier, il avait 81 ans. Il formait avec Patrick Lelay un tandem redoutable qui a fait de la chaîne une machine à audience. En un demi-siècle de carrière, il avait également dirigé les rédactions d'Europe 1, du Figaro et de Télé 7 jours. Un coup dur pour les GAFAM. L'Irlande rejoint finalement la liste des pays favorables à un impôt minimum de 15% sur les sociétés. Une véritable concession, hein, car c'est grâce à sa fiscalité avantageuse que la petite République avait assis son économie, Marie Billon.
C'était la marque de fabrique du modèle irlandais, un taux d'imposition bas sur les sociétés afin d'attirer les grandes enseignes. Dublin s'est longtemps battu pour le conserver. La population elle-même y était favorable selon les sondages, mais la République d'Irlande a finalement cédé à la pression internationale. Concrètement, cela veut dire que l'impôt sur les sociétés qui ont un chiffre d'affaires de plus de 750 millions d'euros va passer de 12,5 à 15%. Dublin estime avoir négocié des conditions qui lui permettent malgré tout de rester une destination attractive pour les entreprises.
Marie Billon à Londres pour RTL.
On a beaucoup parlé ces dernières semaines de la violence dans les stades. Illustration extrême, hein, le week-end dernier dans l'Hérault.
Un arbitre a été agressé à la sortie du stade par un jeune joueur de Marseillan, simplement parce qu'il avait voulu faire respecter la règle du pass sanitaire. Le président du district de foot de l'Hérault, David Blatt, est furieux.
Je suis très en colère, C'est scandaleux. On est sur une agression d'un arbitre alors qu'il avait quitté le terrain. Donc c'est à la sortie de son vestiaire, si vous voulez. Donc c'est un acte purement prémédité. Lâchement frappé parce qu'il n'a fait que son job. Il a demandé le pass sanitaire donc aux joueurs. Certains joueurs ne l'avaient pas et ils n'ont pas accepté tout simplement. Les arbitres qui sont là pour nous aider, parce que sans arbitre, il n'y a pas de rencontre, je suis désolé. Et bien justement, on s'en prend à eux.
Propos recueillis pour RTL par Patrick Hisson. Notez que les arbitres sont de moins en moins nombreux. Dans l'Hérault, par exemple, près d'un tiers n'ont pas renouvelé leur licence cette année. Le football côté compétition. Les Bleus ont de nouveau douché les Belges hier en demi-finale de la Ligue des Nations. Tout pâle en première période. Ils étaient menés 2-0 à la mi-temps. Ils ont repris des couleurs après la pause. Victoire finale 3-2. But de Benzema, Mbappé et Théo Hernandez. La revanche du Mondial 2018 n'a donc pas eu lieu. L'équipe de France est toujours là, dit Didier Deschamps.
Si on regarde l'équipe de Belgique, vous pouvez dire aussi qu'en deuxième mi-temps, ils ont sombré. Alors, c'est eux qui étaient moins bien ou c'est nous qui avons rehaussé notre niveau? C'est un rapport de force. L'équipe de France a toujours réagi en étant menée, souvent à renverser des situations, de par la qualité, mais ça fait partie du caractère, de l'orgueil, la fierté aussi.
Didier Deschamps au micro RTL de Philippe Sanfourche. Rendez-vous dimanche pour la finale contre l'Espagne. 20h45, ce sera sur M6 et sur RTL. Notez que Lucas Digne sera forfait car il est blessé. Et puis on ne peut pas passer à côté de la mésaventure d'Andy Murray, le tennisman écossais qui avait perdu son alliance accrochée à des chaussures qu'il avait mises à sécher parce qu'elles sentaient trop fort. Il a lancé un appel, ça a marché. L'alliance est revenue, les chaussures aussi, mais elle pue toujours autant, c'est ce qu'il précise.
On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, vous apprendrez ce qu'est devenu le dernier bourreau de France et la dernière guillotine d'ailleurs.
Oh là là, à tout à l'heure. Isabelle, vous m'intriguez, comme chaque jour. Dans un instant, l'Anglais Co avec François Langlais, il nous parle inflation, retraite et pouvoir d'achat.
Retraite qui passe à la guillotine justement.
À tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h37, l'Anglais Co avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Les retraites complémentaires des salariés du privé seront bien revalorisées, mais de 1% seulement.
Oui. Alors que l'inflation est aujourd'hui de 2,1% en rythme annuel, et puis qu'elle menace d'accélérer sensiblement hein, à cause de l'envolée des prix de l'énergie. Si on se dit les choses comme elles sont, ça veut dire que c'est une perte de pouvoir d'achat pour les retraités du privé.
Alors c'est quoi exactement la retraite complémentaire ?
C'est une partie de la pension qui s'ajoute au montant de la retraite dite de base, versée par la Sécu. Tous les salariés du privé cotisent obligatoirement à une caisse complémentaire, elle s'appelle Agirc-Arrco, géré non pas par l'État, mais par les partenaires sociaux.
Oui.
Cette retraite complémentaire, bon, c'est loin d'être anecdotique. Hein, ça représente la moitié de la pension et les deux tiers pour les cadres. C'est dire si la sous-indexation par rapport à la hausse des prix va peser sur les revenus des retraités.
Comment explique-t-on ce tour de vis, quand même ?
Il s'agit d'éviter une détérioration des comptes de l'Agirc-Arrco à cause de la crise sanitaire. En fait, la réforme des retraites a commencé, mais pas du tout de la façon dont on l'attendait. Ce ne sont pas les classes les plus jeunes qui payent en voyant leur durée de carrière augmenter, mais les retraités qui voient leurs revenus rogner. Et l'inflation qui pointe va probablement accélérer le mouvement, parce que la hausse des prix, c'est toujours le moyen de corriger des écarts qui ne sont pas tenables.
Que voulez-vous dire exactement, François ?
Le fond du problème, c'est que la promesse implicite de revenus faite aux retraités actuels et aux futurs retraités elle n'est pas tenable financièrement, aux conditions actuelles, hein, c'est-à-dire départ 62 ans, le système explose à cause du déséquilibre démographique et puis de la croissance trop faible de notre pays. Il y a trois façons d'ajuster. Un, creuser la dette. On l'a fait pour le régime de base, on est au bout de cet expédient. Deux, allonger la durée de cotisation. Le gouvernement a raté son coup. Reste le 3, c'est la baisse du revenu des retraités, et c'est ce qui est mis en œuvre. Et l'inflation permet de le faire sans le dire. En apparence, on revalorise les pensions de 1%, en réalité, on les baisse. De 1% au moins, à cause de la hausse des prix. C'est ce qu'on appelle l'illusion monétaire.
Oui.
C'est exactement ce qu'on faisait avant l'euro avec les salaires. Regardez mai 68, pour éteindre le mouvement social, les fameux accords de Grenelle augmentent massivement les salaires. Dès l'année suivante, en 69, on dévalue le franc, l'inflation repart. Ça veut dire que le bénéfice de la hausse des salaires, il est annihilé en quelques mois. On a fait exactement la même pirouette en 81, avec l'arrivée des socialistes, qui augmentent le SMIC de 10% et ils dévaluent derrière.
Mais pardonnez-moi, c'était une forme d'escroquerie.
Ah, on ne saurait mieux dire.
Bon, alors, ça ne vous émeut pas plus que ça hein?
Bah, c'est la plus vieille technique du monde. Pour en revenir à nos pensions, le niveau de vie des retraités est aujourd'hui supérieur, en moyenne, hein, bien sûr, à celui des actifs. Bah, c'est intenable, on ne peut pas financer ça. La génération des 60-69 ans, par exemple, selon l'INSEE, est celle où le taux de pauvreté est le plus faible de toutes les classes d'âge, trois fois inférieur à celui des jeunes. L'inflation va sans doute permettre de rééquilibrer le partage des richesses entre les générations.
Bah, les chiffres sont passionnants et en même temps inquiétants. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve lundi et d'ici là sur RTL.fr pour le nouvel épisode de Langlais Co intitulé « La crise de l'énergie provoque-t-elle un revirement vers le nucléaire ?» Il est très exactement 7h40. Bonjour Benjamin Sportouche.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Eh bien écoutez, une femme geek, ingénieure et chef d'entreprise de talent, Aurélie Jean, elle n'a pas encore 40 ans, elle vient nous parler d'algorithmes. Alors là, vous vous dites peut-être que c'est trop compliqué, pour moi aussi ça l'était, mais je vous rassure, avec elle, tout se simplifie. C'est passionnant.
Allez, on fait tourner les algorithmes dans un instant sur RTL avec Benjamin Sportouche et son invité sur notre antenne. A tout de suite.
RTL Matin avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin Aurélie Jean qui est docteur en sciences numériques.
Bonjour Aurélie Jean.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Alors vous êtes un cerveau, comme on dit, une craque de l'informatique. Vous n'avez pas encore 40 ans, vous êtes ingénieur, passé par Normal Sup, l'école des mines, le MIT, la prestigieuse université américaine. Et quand d'autres étudiants se passionnent pour les lettres, la psychologie, bien vous, ce sont les algorithmes. Vous venez d'ailleurs d'y consacrer un deuxième livre en forme de question. Les algorithmes font-ils la loi? Alors on va y venir à cette question. Mais d'abord, pour beaucoup d'entre nous, eh bien, ça reste très vague, les algorithmes. Pour être clair, on a juste l'impression que ce sont en gros des petits cailloux qu'on laisse derrière nous à chaque fois qu'on va sur Internet. Des petits cailloux qui sont autant de mouchards et qui font des algorithmes. On ne les voit pas, mais ils mènent nos vies. Est-ce que c'est un peu ça?
Exactement. Il ne faut pas non plus les présenter que sous un angle négatif, quand même. Donc, les algorithmes sont littéralement donc des objets mathématiques et numériques avec lesquels on interagit au quotidien dans nos outils pour travailler, pour vivre, pour se déplacer, pour se soigner, et qui vont en fait exécuter un ensemble de tâches selon une certaine hiérarchie, une certaine logique, dans le but de répondre à une question, de résoudre un problème, de faire des prédictions, etc., etc.
Oui, vous avez, dans notre imaginaire, c'est on consulte une page internet et hop, on reçoit des publicités en cascade, quoi. C'est aussi ça.
Par exemple, mais il y a aussi plein d'autres choses qu'on peut faire avec les algorithmes. C'est vrai qu'on a tendance à les associer aux réseaux sociaux, aux sites web, etc., etc. Mais on les utilise dans le domaine médical, dans le domaine de la finance pour la rendre transparente. On l'utilise pour faire de l'optimisation de parcours, quand vous allez d'un point à un autre et pour aller le plus rapidement possible. On va les utiliser dans plein de domaines et peut-être aussi vous dans votre métier en tant que journaliste pour aller faire des recherches.
Voilà. Tout à fait. Alors on va y venir, mais d'abord, au moment où l'apport des autres cultures a surgi dans le débat politique, rappelez-nous d'où vient le mot algorithme.
Alors, c'est très intéressant. Et le mot algorithme vient du nom latin algorithmi, du mathématicien perse du 9e siècle de notre ère, Al-Khwarizmi, dont vient le mot aussi algèbre, pour que les gens en sachent. Donc, le mot algorithme est très ancien et le concept même d'algorithmique, à savoir de raisonnement logique pour résoudre un problème, date de l'époque d'Euclide, 3 siècles avant notre ère. Donc, c'est beaucoup plus ancien, beaucoup plus vieux que l'âge de l'ordinateur.
Mais le mot, c'est le nom d'un mathématicien et astronome perse. Voilà, magie des mots. Alors, vous le disiez, on l'entend, vous êtes un peu l'avocate de ces algorithmes. Vous dites par exemple qu'ils sont très utiles à notre santé. Vous-même, vous avez travaillé, Aurélie Jean, sur les traumatismes crâniens pour en anticiper les conséquences grâce à ces algorithmes.
Exactement, c'est-à-dire que j'ai développé des modèles algorithmiques, des algorithmes, pour pouvoir simuler un traumatisme crânien que je ne pouvais pas faire dans la vie réelle. Je ne pouvais pas percuter une tête humaine d'une personne vivante pour voir les symptômes de la personne. Donc je l'ai fait à travers des algorithmes dans le monde virtuel. Et grâce à ça, en fait, donc on a pu développer une loi pour prédire les risques d'un humain de développer un traumatisme crânien moyen, connaissant le type de choc qu'il a reçu à la tête. Donc c'est réellement une révolution, en fait.
Et ça s'applique déjà dans les hôpitaux avec des médecins qui s'en servent ?
Alors à l'époque, donc j'étais au MIT, j'étais financée par l'armée américaine et la Navy qui utilisent cette loi aujourd'hui pour estimer les risques de soldats qui ont été exposés à des ondes de pression dues à des explosions, par exemple. Donc c'est important. La NFL s'y est intéressée. Donc la NFL, c'est la Ligue de football américaine qui s'est intéressée à ça aussi. Donc il y a énormément d'applications et petits... Parenthèse, donc j'en parle dans le premier livre. J'ai travaillé aussi, je l'ai utilisé dans le cas du marathon de Boston en 2013. Il y a eu une attaque terroriste avec deux bombes qui ont explosé à 12 secondes d'écart. Et j'ai utilisé cette loi pour estimer le risque des gens qui étaient autour de la bombe, qui n'ont pas été blessés physiquement en apparence, mais qui ont peut-être eu un traumatisme crânien.
Votre autre livre, c'était « De l'autre côté de la machine », qui a été un best-seller toujours aux éditions de l'Observatoire. Un autre exemple de l'impact positif, eh bien, c'est sur le cancer du sein. Vous y travaillez en ce moment, la détection du cancer du sein.
Exactement. Donc, je travaille en fait avec des collaborateurs israéliens. C'était au départ un projet de recherche qui est devenu une entreprise et on est en train de lever des fonds. Donc, on a développé un algorithme pour aller détecter et localiser ce qu'on appelle une signature tumorale au sein à partir d'une mammographie. Qu'est-ce qu'une signature tumorale ? C'est littéralement un signal faible. C'est d'aller anticiper, de trouver le cancer dès le début de son évolution et ne pas attendre qu'on voit la tumeur sur la mammo. Donc on arrive à détecter aujourd'hui 2 ans avant qu'on puisse voir la tumeur sur la mammographie et on peut aller encore plus loin. Et c'est important parce que
vous avez compilé des données.
Exactement, on a compilé des données, on les a traitées. Donc c'est un modèle que j'appelle un modèle hybride, que j'explique dans le livre. Donc qu'est-ce qu'un modèle hybride ? Il y a une partie mathématisée, explicite, que je définis à la main. Il y a une partie qui est d'apprentissage, donc l'algorithme va être entraîné sur des données qui représentent le scénario sur lequel il va répondre à une question, à savoir, y a-t-il une signature tumorale ?
Dites, est-ce qu'un jour les algorithmes pourront remplacer les sondages pour prévoir une élection, puisqu'on est en plein dedans ?
Écoutez, alors, il y a déjà beaucoup de calculs statistiques où il y a par ailleurs des algorithmes derrière. Alors, c'est intéressant que vous disiez ça parce que si on devait faire aujourd'hui un algorithme entraîné sur les présidents du passé de notre pays, jamais il ne proposerait une femme. Donc, attention lorsqu'on utilise ces algorithmes.
C'est là où il peut y avoir des biais. Vous en parlez, c'est très intéressant dans votre livre. Alors, ces algorithmes, on vous entend, vous les défendez parce qu'ils peuvent être utiles, mais en ce moment, ils ont mauvaise presse. Ouais. Regardez, à peine cette semaine, l'affaire Facebook sur la protection des données, une lanceuse d'alerte spécialiste des algorithmes. Comme vous, Frances Haugen, elle a dénoncé l'objectif uniquement mercantile, lucratif des algorithmes de Facebook. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, Aurélie ? Est-ce qu'il faut boycotter ou un petit peu Facebook pour qu'ils comprennent qu'ils vont dans le même sens ?
Donc, déjà, c'est bien qu'on ait eu cette lanceuse d'alerte parce qu'on n'a pas été surpris, on savait ce qui se passait. Maintenant, on a une preuve de quelqu'un de l'intérieur, donc c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a plusieurs actions. L'une des actions, c'est ce que je défends dans le livre, c'est de faire en sorte qu'on ait des régulations qui puissent encadrer les pratiques de développement de ces algorithmes. J'explique, quand j'entends on va réguler les algorithmes, on ne peut pas réguler un algorithme parce qu'on ne peut pas l'auditer, on ne peut pas l'évaluer entièrement. On ne peut pas évaluer sa logique entièrement. Par contre, on va pouvoir réguler la manière dont on les développe, la manière dont on les pense, la manière dont on les entraîne, la manière dont on les teste. Les tests sont importants. Et par exemple, elle en parle beaucoup, Frances Haugen, de parler de l'effet bulle, où on va enfermer les gens, les utilisateurs dans des bulles d'opinion et d'observation pour leur proposer du contenu sur ces réseaux. Ça, typiquement, l'effet bulle, c'est pas une fatalité. On peut l'éviter, mais pour ça, il faut faire des tests sur ces algorithmes. Donc, la régulation va encourager, pour ne pas dire forcer les acteurs, à tester massivement leurs outils.
Oui, mais on dit, Mark Zuckerberg, donc le patron de Facebook, eh bien, il n'est pas très actif, très proactif. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas un service public de l'algorithme ? C'est-à-dire qu'il y ait une surveillance par un organisme gouvernemental dans chaque pays.
Alors, il pourrait y avoir ça. C'est ce qu'il y a, par exemple, avec le RGPD.
RGPD, rappelez-nous ce que c'est.
Donc
quand
c'est
on va
le règlement
Internet,
de la protection des données à caractère personnel, qui est un règlement qui a été fait à l'échelle européenne, qui a d'ailleurs influencé le texte à californien, il ne faut pas l'oublier.
Et on doit accepter, on le voit sur Internet, refuser ou accepter des cookies. Hein, c'est notre historique.
Mais ça, c'est un petit tour. En fait, c'est tout ce qu'il y a derrière qui va protéger vos données à caractère personnel. Et typiquement, dans ce cas-là, lorsque un acteur viole le RGPD, ou on pense qu'il a violé le RGPD, il y a toute une machinerie, un processus qui se met en place avec des comités, etc. pour s'assurer que tout se passe bien. Concernant les algorithmes, moi, j'en parle dans le livre. Je parle de l'exemple de Cathy O'Neill, qui est une grande scientifique américaine, qui propose cette idée d'une organisation comme la FDA aux États-Unis. Donc, c'est une organisation qui va valider des médicaments, des vaccins, des processus médicaux, des diagnostics, etc., etc., pour les algorithmes, quelque part, pour les algorithmes à risque, parce qu'on ne va pas non plus faire passer tous les algorithmes, ceux à risque qui vont, par exemple, interagir avec des êtres humains, qui vont, par exemple, utiliser des données à caractère personnel, qui vont, par exemple, engendrer une décision de manière automatique, donc une décision qui va porter sur un individu, etc., etc. Donc il y a plein de choses qui... En tout cas, une chose est certaine, il faut qu'on en parle, il faut qu'on aborde ce sujet de la régulation, comment on le fait, et pour éviter aussi également de ne pas freiner l'innovation.
C'est ça qui est important, c'est ça que vous dites. Ouais. Mais est-ce qu'en même temps, au quotidien, comment on fait pour garder le contrôle? Est-ce qu'il y a des moments où il faut s'empêcher de télécharger une application sur son téléphone, parce qu'on sait que ces données, derrière, elles vont être utilisées? Comment vous faites-vous, d'ailleurs?
Ce qu'il faut... Alors, moi, c'est vrai que je sais ce qu'il y a dedans, mais je les utilise pour savoir comment ça fonctionne aussi. Je fais un peu ce qu'on appelle de l'ingénierie inversée. Voilà. Il faut comprendre ce que c'est un algorithme, un minimum. Il faut comprendre ce que c'est la donnée. Et ne serait-ce que comprendre l'effet bulle permet de réaliser que lorsqu'on est sur un réseau social, on peut être possiblement en fait enfermé dans une bulle d'opinion et d'observation et on ne va voir le monde que sous une vision prismatique. Et donc, c'est important de prendre ça en considération pour littéralement, parfois, aller, si on veut aller sur un réseau comme Twitter, d'y aller en étant incognito, c'est-à-dire ne pas y aller en étant connecté, ou suivre des comptes avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, etc., etc., pour se rendre compte de ce qui est dit, de ce qui se fait. Et puis, surtout, lorsqu'il y a un scandale, lorsqu'on voit une erreur, c'est d'essayer de challenger, de défier au mieux les acteurs, les dirigeants politiques et économiques.
Oui, c'est ce que vous dites, mais ils ne sont pas très bien formés, nos dirigeants politiques, à tout ça, c'est ce que vous dites.
Oui, exactement. Donc, ils doivent lire mon livre. mais ce qui est très important, c'est que nos dirigeants politiques et économiques, ce sont eux qui doivent en priorité comprendre, les législateurs également, pour arriver justement à créer une régulation qui ait du sens, pertinente, et l'enjeu est beaucoup plus difficile que dans le cas de la donnée à caractère personnel.
Vous serez peut-être un jour secrétaire d'État au numérique.
Ou pas, non.
On verra. Je reviens juste d'un mot, parce qu'on arrive malheureusement au terme de cette interview. Sur votre parcours, vous êtes une scientifique femme, vous savez que c'est un problème récurrent, le manque de femmes dans les filières scientifiques. Vous dites, vous avez lu dans une interview, vous dites, ça se passe dès l'enfance. On donne des Lego aux garçons, moins aux filles. Ça peut paraître anodin. Mais ça ne l'est pas.
Absolument. Alors ça change, bien sûr. Alors moi, c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de chance. J'ai grandi autant avec des poupons qu'avec des voitures télécommandées et une petite moto électrique. J'étais très très gâtée. Mais c'est vrai, Mais ça change. Mais il y a encore des orientations vers des jeux plutôt que d'autres et certains beaucoup plus ludiques pour les garçons. Et ça commence très tôt, bien évidemment. C'est des choses qu'on va changer, j'espère.
Espérons-le. Merci beaucoup, Aurélie Jean. Ça s'appelle « Les algorithmes font-ils la loi ?» C'est aux éditions de l'Observatoire. On apprend plein de choses.
Et comme chaque jour, l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site RTL.fr. Merci beaucoup à l'une et à l'autre dans un instant. Alors, je rappelle votre entretien qui est à retrouver sur le site RTL.fr. Puis dimanche à midi, dans le grand jury, vous recevrez Christophe Castaner, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale.
À dimanche.
Et à tout de suite pour Philippe Cavrivière.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
7h55, Aurélie Jean, notre invitée, est restée avec nous. Et vous êtes ravi, Philippe.
Ravi.
Oui, car vous avez un parcours scientifique tout à fait semblable.
Il y a du mépris dans votre
sourire. Non, pas du tout.
Si, il y a du mépris.
Comment vous...
On a suivi exactement les mêmes études jusqu'en CM2. Et puis après, nos chemins se séparent, Aurélie. Aurélie Jean, vous êtes mondialement reconnue. Je suis municipalement assez estimée sur Saint-Raph-Centre et un peu Fréjus. Cela dit, Aurélie, n'hésitez pas à prendre des notes si j'ai une fulgurance scientifique pendant la chronique. Souvent, les invités prennent des notes pendant ma chronique, comme Éric Dupond-Moretti la semaine dernière. Enfin, lui, c'est parce qu'il s'emmerdait, il a fait un sudoku. Alors, je suis comme vous spécialiste des réseaux sociaux. Chacune de mes publications fait entre 6 et 17 likes. Autant vous dire que je n'ai plus de vie. D'ailleurs, au moment de la panne de Facebook, Instagram, WhatsApp, l'autre soir, j'ai enfin pu retrouver une existence normale. Et figurez-vous qu'il y a une dame qui vit dans mon appartement. Elle prétend être ma compagne et qu'on serait même mariés. C'est à vérifier. On découvre de ces trucs quand on lève le nez de son téléphone.
Alors, Philippe, vous n'êtes pas seulement un scientifique. Vous
pas
êtes
seulement.
Aussi un très brillant économiste.
Tout à fait.
Le prix du gaz s'envole de 25% sur les marchés européens. C'est dramatique pour
dramatique,
certaines personnes.
C'est le mot. Vous savez que certaines personnes dépressives sont obligées de reporter leur suicide à cause de cette augmentation. Ils font leur compte, François, et ils disent, ça ne passe pas. Je ne peux pas me permettre de me foutre en l'air ce mois-ci. Je vais donc l'épargner pour me faire ce petit plaisir le mois prochain. Et ça, c'est intolérable en 2021.
Bien sûr. Alors, on l'a appris, les chiffres du chômage sont bons. Cela dit, 150 000 postes ne trouvent pas preneurs, souvent dans les métiers de la restauration. Les Français sont-ils devenus fainéants?
C'est donc au sociologue que vous parlez, là.
Oui.
Non, les Français ne sont pas devenus fainéants. François Langlais me le confirmait hors antenne. ils l'étaient déjà avant. Ils se sont juste rendus compte qu'ils aimaient ça, et ça c'est à cause du Covid, quand les personnes ont arrêté de travailler. C'est vrai que ça a été une vraie révélation pour eux. Beaucoup se sont dit, oh ben tiens, j'aime rien foutre, est-ce que je ne me lancerai pas dans cette activité à temps plein?
Alors restons dans l'économie. Un mot de l'affaire des Pandora Papers. Dominique Strauss-Kahn est soupçonné d'avoir blanchi plusieurs millions de dollars via le Maroc.
Oui, alors attention, oui. Pas de confusion. Dominique Strauss-Kahn est cité dans l'affaire Paloma Poppers, qui est une escorte sud-américaine brésilienne de 27 ans. Elle se déplace, elle reçoit 300 euros, 500 les deux heures. On mettra toutes ses coordonnées sur le site de RTL, bien sûr. Pour ce qui est de Pandora Papers, c'est un scandale financier à 11 300 milliards de dollars. Hein. C'est ce qu'on appelle du fisc fucking. Et c'est, pardonnez-moi, mais c'est autre chose que Julien Courbet avec ses histoires d'arnaque à 400 balles pour une véranda. Oui, ça peut vous arriver, c'est Julien Courbet. Je suis avec Bernadette et Jean-Claude, qui ont un problème de fuite quand ils sont sous leur véranda. Non pas Bernadette et Jean-Claude, je parle de la véranda, hein, bien sûr. Je fais des petites blagues aussi pendant mon émission.
Les comptes se règlent à 9h30. Hein. Alors, un mot de santé maintenant, gastro, rhume, angine, c'est le retour en force des maladies d'hiver. L'année dernière, avec les masques et le confinement, ces maladies avaient disparu.
Oui, après 2 ans d'absence, elle revient sur scène. Ce n'est pas Mylène Farmer, non, c'est la gastro. Comme James Bond, hein, cela faisait 2 ans qu'elle attendait pour sortir, et bien la voilà. Elle est en tournée partout en France, surtout ne réservez pas vos places. Rassurez-vous, elle va venir toute seule chez vous, hein, comme une grande.
Bien, alors du coup, c'est peut-être mieux de garder nos masques et puis de continuer à mettre du gel hydroalcoolique, accessoirement, se laver les mains.
Tout à fait, en tout cas, c'est la preuve qu'en se lavant les mains, on évitait les maladies. Mais seulement, voilà, les Français en avaient marre d'être propres. 2 ans à se laver, c'est trop fatigant pour eux. Oui. Ils ont donc décidé de redevenir français, donc dégueulasse. Et du coup, la gastro va cartonner. Et puis, je vous ai vu hier sur BFM, je vous suis, Yves. Yves a tenté hier de confesser en vain Monseigneur Bruno Valentin. Et j'ai appelé l'archevêché juste derrière, je suis tombé là-dessus. Tu cherches les enfants les plus chauds de ta paroisse? Tu veux leur donner l'onction avec ton goupillon personnel? Alors, envoie Bambino au 6-12-12. C'est scandaleux, Yves, ce genre de
choses. L'œil de Philippe Cabrivière. Je n'ajouterai rien. Non. Merci beaucoup.
Partons. On
vous retrouve
bien entendu
sur le site RTL.fr. Et merci d'être resté avec nous, Aurélie Jean. Notre météo, avec vous, Marina Giraudeau, dites-nous.
C'est difficile hein, de prendre la suite. Hein. Bon, j'ai des bonnes nouvelles pour vous, pour quasiment tout le monde en plus, parce que même si vous avez quelques brumes, quelques passages nuageux, généralement ça va se dissiper, le bleu sera au rendez-vous. Et même si vous avez quelques cumulus, ce sont les fameux cumulus de beau temps qui juste décoreront le ciel. Alors là, on les trouvera, c'est plus précisément du Massif central, au Lyonnais, remontant vers la Franche-Comté et l'Alsace. Pour les autres, la grisaille matinale va se dissiper, ce sera du beau. Peut-être un peu plus de nuages quand même sur la Corse, avec une petite averse possible. Du vent aussi. Mistral, Tramontane, du vent sur les côtes corses. Et côté température cet après-midi, 17 à 21 sur une grande partie du pays, 22 à 25 en Méditerranée.
Marina Giraudeau. RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
À la une, l'hommage à Samuel Paty. Un an après son assassinat, les établissements ont donc reçu pour consigne d'honorer le souvenir du professeur.
Un devoir de mémoire parfois rendu compliqué par endroits. Il n'y a par exemple aujourd'hui en France que 2 écoles Samuel Paty, un nom encore loin de faire l'unanimité. À suivre également dans ce journal, la pénurie d'ophtalmo. Même si les délais se réduisent pour obtenir un rendez-vous, il faut parfois encore patienter plus d'un an. Reportage à suivre. Nous évoquerons également la colère des sages-femmes hier dans la rue pour réclamer de meilleures conditions de travail. Les radars dont les recettes seront moindres cette année, la faute au confinement et au télétravail. Cette bataille de genre à l'Assemblée, Madame Le ou la ministre, on ne sait plus bien. Et puis les Bleus en finale de la Ligue des Nations après une victoire et un match totalement dingue hier contre la Belgique.
Cyprien Signy, votre surf de l'info.
Avec l'étonnante reconversion d'une ancienne députée écolo.
Dès la fin du journal.
RTL Matin.
Ce sera donc vendredi prochain, le 15 octobre, près d'un an après l'assassinat de Samuel Paty. Élèves et enseignants vont donc de nouveau lui rendre hommage en 2 temps. D'abord à un moment de recueillement, puis d'échange entre élèves et professeurs. Libre à chaque établissement d'organiser cet hommage comme il l'entend.
Car un an après, et malgré l'émotion considérable suscitée dans tout le pays, honorer la mémoire de Samuel Paty n'est pas forcément chose évidente partout.
On aurait d'ailleurs pu s'attendre à ce que nombre d'écoles, de collèges, de lycées soient rebaptisés Samuel Paty. Or, ce n'est pas le cas. Seul un collège en Île-de-France et une maternelle à Cap d'Aille dans les Alpes-Maritimes portent aujourd'hui le nom du professeur. Michael Lefebvre, vous êtes précisément rendu dans cette école où ce choix est loin de faire l'unanimité.
Oui, à l'annonce de cette décision, quelques jours seulement après l'assassinat de Samuel Paty, une pétition de parents d'élèves demandant l'annulation de cette délibération avait circulé, recueillant très rapidement plus de 300 signatures. Trois mois après, certains d'entre eux ne décollèrent toujours pas et envisagent même des mesures extrêmes.
C'était très bien d'honorer ce monsieur, mais je pense qu'une école maternelle est très déplacée, qu'il y avait beaucoup d'autres endroits qui sont neufs dans Cap-d'Aille qui auraient très bien pu servir d'un hommage à ce monsieur.
Je pense déjà de changer d'école, de le mettre à Monaco. Au moins, je sais que, enfin, voilà, il est en sécurité.
Mais pour d'autres parents, cet hommage au professeur assassiné est parfaitement légitime.
C'est bien que ce soit la première école maternelle en France qui porte son nom. Je ne pense pas que le fait d'appeler une école juste par rapport à ceci va pouvoir attirer des mauvaises choses.
Moi, je suis très content que ça s'appelle comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'on a peur qu'on doit baisser les bras et abandonner parce qu'on a peur. Sinon, on serait soumis et on n'a pas envie d'être soumis.
Mais à Cap-d'Aille, le sujet reste sensible à tel point que le maire, Xavier Beck, dont la volonté est d'honorer la mémoire de Samuel Paty en permanence, n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations.
Reportage de Mickaël Lefebvre.
Cette enquête à présent qui vise l'une des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs.
L'école Centrale, aujourd'hui devenue Centrale Supélec, au cœur donc d'une enquête pour harcèlement, agression sexuelle et viol. Tout est parti d'un questionnaire anonyme distribué par la direction, à la suite duquel 28 étudiantes ou étudiants se sont déclarés victimes de viol. Des dizaines d'autres dénoncent des agressions sexuelles. Romain Soubéran est le directeur de l'école.
On est vraiment tombé des nues quand on a découvert ça. Et on s'est dit, ça veut dire que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce qu'on pensait avoir fait beaucoup de choses, c'est aussi pour ça qu'on a été surpris. Ça montre qu'il faut faire évoluer le dispositif. Pour l'instant, cette enquête, elle est remontée anonymement. Ce que j'espère, c'est qu'en en parlant, en mettant les choses sur la table, ça va peu à peu délier la parole. Ça va permettre que les victimes fassent des signalements, mais on ne passera rien sous silence. Je dirais, c'est ce qu'on fait avec cette enquête. On a des résultats alarmants. Ben, on les diffuse, on les présente.
Romain Soubéran, directeur de Centrale Supélec, propos recueillis par Aurélia Valarier.
Il est 8h04, obtenir un rendez-vous avec son ophtalmo est parfois chose compliquée, hein, mais ça va mieux, les délais semblent se raccourcir.
C'est ce qui ressort de l'enquête dévoilée aujourd'hui par le syndicat national de la profession. 26 jours en moyenne aujourd'hui avant de pouvoir faire contrôler sa vue, contre 42 en 2019. Même si vous allez l'entendre, certaines zones restent désespérément oubliées. À Montbéliard, dans le Doubs, Yannick Collant a tenté d'appeler les cabinets de la ville pour obtenir un rendez-vous. Écoutez bien appel réalisé sans trucage.
Bonjour, vous êtes bien en communication avec le cabinet d'ophtalmologie. Pour obtenir un rendez-vous pour le mois de mai 2022, merci de bien vouloir téléphoner uniquement au cabinet le mardi 2 novembre à partir de 9h.
Rien avant mai 2022, 7 mois d'attente et les autres cabinets de Montbéliard sont eux aussi débordés. Nouvelle tentative sur internet, nouvel échec, pas de rendez-vous. Le docteur Thierry Bourg est le président du syndicat national des ophtalmologistes. Le délai moyen de rendez-vous dans les villes moyennes est de 40 jours, mais il reconnaît qu'il reste des zones très difficiles comme Montbéliard où il faudrait faire beaucoup plus.
On préconise d'une part d'inciter les ophtalmologistes à s'y installer puisque les incitations n'ont jamais existé pour les médecins spécialistes, mais uniquement pour les généralistes actuellement, mais également de favoriser l'ouverture du cabinet secondaire pour une offre de consultation qui n'existe pas actuellement.
En tout cas, à Montbéliard, on reste très loin de l'objectif affiché par la profession, zéro délai en 2022.
Reportage signé Yannick Collant. Des milliers de sages-femmes ont manifesté hier à Paris, depuis le quartier Montparnasse jusqu'au ministère de la Santé. C'est leur cinquième journée de mobilisation depuis le début de l'année. La profession est à bout et on va vous expliquer pourquoi. Ce matin, c'est le choix de la brigade RTL. Avec vous Agathe Landais, bonjour.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Vous avez rencontré hier ces sages-femmes lors de ce rassemblement. Elles ne supportent plus leurs conditions de travail.
Oui, et cela a poussé Perrine à démissionner de son hôpital en Picardie pour se tourner vers le libéral.
Je ne supportais plus le rythme de nuit, les gardes hyper chargées, où j'ai l'impression de bâcler mon travail parce que c'est du travail à la chaîne et c'est inhumain.
Et le tout pour 2200 euros à la fin du mois. Vanessa travaille, elle, depuis plus de 20 ans dans un hôpital du Gard. Elle ne compte plus ses heures.
Moi, j'ai déjà repris 11 gardes supplémentaires cette année. Là, il nous reste plus d'une vingtaine de gardes à pouvoir pour le mois prochain. On ne sait pas encore comment on va tourner.
Comment expliquer, Agathe, cette pénurie de bras? Le métier de sage-femme n'attire plus, c'est ça?
Non, et d'ailleurs, les formations ne font plus le plein. Et c'est avant tout à cause de la rémunération. Une sage-femme touche 1700 euros au début de sa carrière. Le salaire moyen à l'hôpital est ensuite de 2700 euros contre 5400, le double pour un médecin. Noémie a 3 enfants. Elle travaille dans un hôpital à Chambéry depuis 11 ans pour 2000 euros par mois. Et pour elle, l'augmentation du Ségur de la santé ne suffit pas.
On a eu la revalorisation de 180 et quelques euros, la même que les secrétaires médicales, les aides-soignants, les infirmiers. Les professions médicales ont été beaucoup plus revalorisées que ça. On a encore une fois été revalorisées comme les professions paramédicales. Mais on n'a pas le même temps d'études, on n'a pas les mêmes responsabilités.
Les sages-femmes réclament aussi, et c'est très symbolique, une hausse de leur prime de nuit, aujourd'hui de 9 euros net pour 12 heures de garde.
Et on va retenir ce chiffre. Merci Agathe. Une prime de 9 euros pour 12 heures de garde. Sans doute de quoi expliquer en partie cette colère. C'était ce matin le choix de la brigade RTL. Et puisqu'on parle de prime, cette annonce de la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui propose de verser 1000 euros à certains demandeurs d'emploi de longue durée qui choisissent de suivre une formation dans des métiers qui recrutent. 1000 euros versés en deux fois, la moitié au début de la formation, l'autre moitié à la fin.
Quand la poule aux yeux d'or... aux œufs d'or, pardonnez-moi, non pas aux yeux d'or, c'est... là ça devient un titre de James Bond... Pont un peu moins que prévu. Les radars, moins lucratifs cette année pour l'État. On en parle dans un tout petit instant. Peut-être une bonne nouvelle.
RTL Matin.
8h10, la suite du journal de Dominique Tenza. C'est l'une des conséquences de la crise sanitaire. Les radars rapportent un peu moins.
Et l'an prochain, l'exécutif table sur 714 millions d'euros de recettes. On était à 824 il n'y a pas si longtemps. Mais visiblement, le trafic routier va mettre du temps à retrouver son niveau d'avant la crise. Le télétravail est passé par là. D'ailleurs, Christophe Bourreau, le millésime 2021, s'annonce lui aussi bien rabougri.
Un peu moins de 700 millions d'euros. Voilà ce que les radars devraient rapporter cette année. Soit une baisse par rapport aux prévisions à cause du confinement au printemps dernier. Pour 2022, l'État s'attend donc à une amélioration, mais une amélioration timide à 714 millions. Cela reste certes conséquent, toutefois, on est loin du pic de 824 millions en 2017 et du milliard que l'on pensait atteindre dans la foulée, car entre-temps, il y a eu les gilets jaunes et les destructions de cabines qui depuis ont été réparées puisqu'aujourd'hui 93% sont en état de marche. Malgré cela, le gouvernement ne s'attend pas à une remontée en flèche des recettes avant 2 ou 3 ans, estimant que le trafic va mettre du temps à retrouver son niveau d'avant la crise en raison notamment du déploiement massif du télétravail. Cela dit, il faudra être vigilant sur la route avec au total 4700 cabines en activité à la fin de l'année prochaine.
Christophe Bourreau. Il y a moins de gens qui roulent, mais il y a toujours autant de radars. Exactement. Ce coup de colère à présent, celui de la ministre de l'écologie, Barbara Pompili. C'était hier soir à l'Assemblée nationale, débat houleux sur les éoliennes, mais ce n'est pas ça qui a fait déraper la discussion. La ministre n'a pas du tout apprécié d'être appelée Madame le ministre par le député LR Julien Aubert. Écoutez.
Je demande de manière très claire à être appelée Madame la ministre. Si Monsieur le député ne respecte pas cela, eh bien, il sera appelé Monsieur la rapporteure et j'en prends la pleine responsabilité.
Non, Madame la ministre. Non, non. Je crois que là, vous ne pouvez pas tordre les usages de la langue. Je regrette.
Ah, si.
Si Monsieur Aubert vous appelle Madame le ministre. C'est un usage validé par l'Académie française. En revanche, monsieur la rapporteure, ça ne l'est pas. Je regrette. Indépendamment de ce qu'on peut en penser, ne nous livrons pas à ce genre de provocation, je vous prie.
La présidente de séance et son dictionnaire, donc, pour rappeler à l'ordre Barbara Pompili sur les usages, certes peut-être dépassés, mais toujours en vigueur, de notre langue française.
Il fut avec Patrick Lelay l'emblématique dirigeant de TF1 dans les années 90. Étienne Moujotte est mort hier à l'âge de 81 ans.
Directeur d'antenne de la première chaîne pendant 20 ans, dès sa privatisation en 1987. Il aura largement contribué à son succès. Il a notamment lancé LCI, la chaîne d'information, un modèle alors unique en France. De nombreux hommages depuis hier, dont celui d'un homme qui fut longtemps l'un des concurrents d'Étienne Moujotte, son challenger, le patron du groupe M6, Nicolas de Taverneau. À l'époque, les deux chaînes sont souvent en concurrence frontale. Il garde pourtant un bon souvenir du dirigeant de TF1.
Étienne Moujotte, c'était d'abord un journaliste. Un journaliste avec un esprit de curiosité formidable, une grande intuition sur le goût du public. Je rappelle qu'on donnait pas cher de TF1 versus la 5 à l'époque de Hersant Berlusconi. Et le travail d'Étienne Moujotte avec celui de Patrick Lelay a fait qu'ils ont gardé le leadership d'une chaîne européenne pendant toutes ces années. Pour nous, ça a été un concurrent redoutable, mais c'était aussi un ami et un collègue avec un esprit confraternel.
Nicolas Taverneau qui rend donc hommage à Étienne Moujotte, emporté hier par un cancer à l'âge de 81 ans.
On termine avec le sport et le foot. Quel match et quel retournement hier soir pour nous bleus, hein.
Si vous avez, comme moi, fait l'erreur de vous coucher à la mi-temps, tout raté. Mené 2-0 par la Belgique à la pause. La France a totalement renversé la situation en deuxième période. But de Benzema, d'Mbappé sur pénalty et de Théo Hernandez. Un scénario totalement fou, mais qui rassure notre consultant Robert Pires sur l'état d'esprit collectif des Bleus.
Bien évidemment, la première mi-temps, on est passé au travers. La Belgique a été très bonne, nous a dominé dans tous les compartiments. Et puis à la mi-temps, je pense que Didier Deschamps a dit des mots un peu forts. Et puis ça a été un réveil, ça a été une révolte. Collectivement, j'ai trouvé que l'équipe de France, elle était au-dessus, surtout sur l'aspect physique. Donc voilà, je crois que ça, c'est une bonne chose, que ça va nous servir pour l'avenir. Et moi, je trouve que le joueur qui a été vraiment inspiré, et il l'est souvent, notamment avec l'équipe de France, c'est Antoine Griezmann, parce que en fait, c'est un vrai joueur collectif. Il a une justesse dans sa passe, il trouve toujours les bons décalages, et c'est lui, pour moi, qui a débloqué la situation face à la Belgique.
Le consultant RTL Robert Pires, France-Espagne, ce sera donc la finale, et ce sera dimanche.
À 20h45 sur M6 et sur RTL, c'était le journal de Dominique Tenza. Dans un instant, Cyprien Sini qui nous rejoint.
Bonjour, bonjour.
Ben voilà, hein, tout va bien. Allez, à tout de suite, il est bientôt 8h15.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
Oh, félicité, il est 8h17, on retrouve Cyprien Sini. Et vous surfez avec, ce matin, l'étonnante reconversion d'une députée écolo.
Eh oui, car hier soir, comme tout le monde, hein, je regardais M6.
Bienvenue dans le meilleur pâtissier pour une saison exceptionnelle.
Oh que oui, la 10e saison du meilleur pâtissier. Mmh. Un incontournable, hein, ce concours de pâtisserie, avec les candidats qui se présentent. Et là arrive...
Je suis Véronique, j'ai 61 ans.
Me dit quelque chose cette Véronique. Et là, tout s'éclaire.
J'ai été députée écologiste de 2012 à 2017.
Mais oui, Véronique, c'est Véronique Massonneau, députée écolo de la Vienne, que vous connaissez forcément. C'était lors d'une séance de nuit à l'Assemblée nationale. Elle est en train de parler et il s'était passé ça.
L'espérance de vie en bonne santé notamment. Oh, ça suffit là. Mais qui c'est qui se fait
Écoutez,
ça
enfin, franchement,
arrêtez quoi. Je suis pas une poule, hein. C'est bon.
Il y a des comportements
incroyables. La durée
incroyable.
Moyenne de cotisation est de 35 ans.
Victime de sexisme avec un autre député faisant la poule pendant son discours.
Non.
Ben oui, elle a perdu ensuite aux dernières législatives. Et donc, elle était hier dans ma télé au meilleur pâtissier. Et en fait, eh ben ça s'explique.
J'ai commencé la pâtisserie à un moment où ma vie était pas très drôle parce que je venais de perdre les élections. J'ai découvert le meilleur pâtissier comme ça, par hasard. J'étais vraiment accro. Et donc... j'ai décidé de m'y mettre aussi. Je me suis dit, pourquoi pas moi, j'adore les challenges.
Ah bah oui, pourquoi pas elle, ça c'est sûr. D'autant qu'une carrière de députée, visiblement, eh ben ça peut servir dans un concours de pâtisserie. Et oui, enfin c'est ce qu'elle dit. Hein.
J'ai participé à 14 campagnes électorales avant d'être élue députée.
Oh là là.
Personne n'avait mis un copec sur moi. Ouais. Donc attention, je peux être une surprise.
Oui, on espère. Enfin, en tout cas, Véro, elle était quand même super contente d'être là.
Waouh, le kiff.
Ah oui, la kiffance même. Et comme gâteau, les candidats devaient faire une tarte qui leur ressemble. Alors évidemment, Véro, elle a fait...
J'ai pensé à mon mandat de députée. Donc j'ai choisi de faire mon écharpe bleu, blanc, rouge.
Une tarte qui ressemble à son écharpe tricolore. Et cette question, a-t-elle été éliminée? Eh bien...
Il ne reste donc qu'une place.
Ouh là 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 là, est-ce que ça va être Véronique?
C'est Anne-Lou.
Oh, éliminée dès le premier tour, Véro. En tout cas, elle a eu le mérite de l'originalité, car des politiques qui tentent des reconversions improbables, eh ben c'est pas si souvent. Il y a bien eu Frédéric Lefebvre, hein, vous vous en souvenez peut-être, en grand littéraire dont il est, son livre de chevet.
Le plus marqué, sans doute, Zadig et Voltaire.
C'est bon,
et je m'y replonge d'ailleurs assez souvent.
Mais c'est vrai que c'est un peu gratuit.
Oui.
Bon, bah, en grand littéraire, donc, il s'est lancé dans l'édition PIF, vous savez.
C'est PIF le mag. Pour le relancer, c'est l'ancien député et secrétaire d'État Frédéric Lefebvre.
Il est directeur de PIF Gadget. Et sinon, on a retrouvé Hervé Mariton aussi.
Ah oui,
lui, le député qui se plaignait car...
Je ne pleure pas, mais un professeur d'université, aujourd'hui, est mieux rémunéré qu'un parlementaire.
Du coup, bah, il avait décidé de se lancer dans le théâtre.
Avant l'inévitable matraque des événements,
c'est lui,
la face
c'est...
volée en éclats.
En éclats. Bon, bah, apparemment, sa carrière n'a pas vraiment décollé.
Non.
Et puis que Véronique Massonneau se rassure, hein, elle est quand même repartie avec les félicitations de l'immense Cyril Lignac.
En tout cas, sachez que vous nous avez régalé. Et je peux vous dire que vous pouvez être très fier de vous.
Et ça, ça vaut largement n'importe quelle victoire électorale.
Bah, la grosse kiffance, hein.
Oh, bah, c'est la kiffance, oui.
Oui. Merci, Cyprien, pour écouter le surf, mais aussi à votre émission Défait le monde en podcast gratuitement sur RTL.fr.
Tout à fait, à lundi.
Dans un instant, Akhenaton, fondateur du groupe marseillais IAM, rend hommage à Bernard Tapie sur l'antenne d'RTL.
Yves Calvi, RTL Matin.
Il est 8h23. Bonjour Akhenaton.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes le fondateur du groupe IAM. On vous retrouve ce matin en direct de Marseille à 2h de l'hommage qui sera rendu à Bernard Tapie à la cathédrale Sainte-Marie-Majeure. Avant de commencer cet entretien, j'ai envie de vous demander quelle est l'image qui vous vient immédiatement à l'esprit quand je vous dis Bernard Tapie.
Je vais dire immédiatement le rapport au club, le rapport à l'OM. C'est 1989-1993, les années qui ont été importantes pour nous. Oui. Alors, il était là avant, mais ces années-là ont été des années assez extraordinaires au niveau de la production en termes de titres et d'émotions à Marseille dans les tribunes du stade de Vélodrome.
Alors, en plus d'avoir marqué tous les supporters de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie a aussi largement influencé, ou en tout cas accompagné, le rap français. Vous vous souvenez de votre première rencontre?
Oui.
Dites-nous.
Il y en a eu plusieurs. La première fois au restaurant. C'était un grand moment où nous, on était des gamins, on était curieux, on posait des questions par rapport à des tas de choses, par rapport à Adidas et tout. Et je pense que c'était quelqu'un de... En fait, c'est pour ça qu'il est tant aimé à Marseille, c'est que sa manière de parler, sa manière d'être, en fait, ça colle complètement à la manière d'être des Marseillais. On était sur la même longueur d'onde. C'était un monsieur qui a amené énormément de choses dans une ville qui était exsangue, parce qu'à la sortie des années 70 et 80, Marseille était à genoux. Ouais. Et il a une personne a réussi à redonner de la joie, ne serait-ce que moi, j'ai le souvenir de mon papa que je n'ai plus et qui est parti jusqu'à Munich pour aller voir la finale de la Coupe d'Europe. Et ce que je disais à la famille Tapie, j'ai dit quand Bernard est parti, j'ai eu l'impression que mon père partait une deuxième fois. C'est bizarre parce que mon père l'adorait. Voilà, c'est quelqu'un d'important dans sa vie, et parce que pour mon père, le football c'était essentiel de sa vie. Voilà.
Il a redonné de la joie. Venez de nous dire. En effet, ça c'est immense et c'est pas quantifiable, c'est-à-dire qu'on est au-delà des questions d'argent et des rapports de force politique.
Ah oui, moi franchement, j'évoque pas. Je pense que même le fait d'aller en politique, ça a été une erreur. Mais oui. je parle vraiment de joie pure, d'humanité. C'était quelqu'un qui avait une belle vision des choses. Des fois, qui pouvait paraître brutal, mais nous, justement ici dans le sud, les Méditerranéens, c'est pas que Marseille, mais il y a une manière un peu abrupte des fois de présenter les choses. C'est pour ça que ça collait de suite. Et voilà, je suis très ému. Le groupe IAM, en tout cas, au complet, on est très touché parce que toutes ces rencontres-là ont compté. Après, politiquement, moi, je partageais pas toutes les vues et les visions, mais humainement, on s'entendait vraiment très bien.
En fait, ce qui est frappant dans ce que vous nous dites, c'est que le rapport qu'il avait avec les gens, quels qu'ils soient autour de lui, était un rapport de simplicité. Il pouvait parler à tout le monde et il pouvait échanger avec tout le monde. Je vous ai compris?
Parce qu'il est, il était très tendre, en fait. Il était, je me rappelle quand il téléphonait dans nos studios et qu'il tombait sur les filles et qu'il répondait des fois. Et toujours la politesse, toujours le petit prénom, toujours l'attention, la gentillesse, et c'est vraiment on mesure des fois la valeur des personnes, comment ils se comportent avec des gens pas nécessairement d'intérêt direct avec eux ou connus, et il était impeccable avec tout le monde.
Vous vous rendez compte du portrait que vous tressez? C'est extraordinaire parce que vous venez de nous dire il était très tendre. S'il y a quelque chose que l'on sait pas sur Bernard Tapie, c'est qu'il ait eu cette capacité de tendresse. Et je pense que les auditeurs qui nous écoutent doivent être très surpris.
Je pense que les auditeurs ont l'image de l'homme d'affaires.
Oui, du battant. Oui.
Voilà, du battant et de la... Mais après, on va dire en amitié, dans les rapports, quand on échangeait, quand on parlait de tout et de rien, au contraire, c'était quelqu'un de très doux, très, très tendre. Après, moi, je n'ai jamais eu affaire à lui dans les affaires. Donc, on avait des rapports qui n'avait aucun rapport avec le business, on va dire.
Je peux vous dire que nous, journalistes, c'était contrasté, si je puis dire, mais en effet, avec des moments de grande sympathie et des moments de tension terribles. Est-ce qu'on doit baptiser le stade Vélodrome le stade Bernard Tapie, selon vous?
Moi, je pense que oui. Il pourrait s'appeler stade Vélodrome Bernard Tapie, parce que tout simplement... Regardez aujourd'hui la difficulté que ce club a à recréer une telle émotion, une telle dynamique. C'est quand même des années enchantées. Moi, je suis tellement content en tant que jeune adulte et fin d'adolescence d'avoir connu ces années-là. C'est toujours à courir derrière des émotions ou du jeu. On a eu la chance de les connaître. Ne serait-ce que pour ce qu'il a amené au club, à la ville, aux gens. Ce serait la moindre des choses.
Vous allez reprendre la route pour une tournée avec Ayam ?
Oui, on est en résidence actuellement, on répète, on prépare le spectacle. Oui.
Et alors, il paraît que vous allez mettre en place un système de test. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit pour accéder au concert ?
En fait, on est très préoccupé de ce qui a écrit sur les frontons de nos monuments en France, liberté, égalité, fraternité. Dans le cadre de l'égalité, on a mis en place, on a pris à notre charge les tests antigéniques ou PCR pour permettre aux gens qui ne sont pas vaccinés de pouvoir faire le test. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y avait une tarification inégalitaire, c'est-à-dire que les vaccinés pouvaient rentrer en payant leur place de concert, et pour les non-vaccinés, ils devaient payer la place de concert plus 44 € je crois de test. Ça faisait vraiment très cher. Donc on a décidé avec le groupe, dans le cadre de nos convictions et dans le cadre de nos positions, de remplacer la sécurité sociale pendant le temps de notre tournée.
Mais quelles sont-elles ces convictions ? Parce que j'ai envie de vous dire, la sécurité sociale, elle a fait son boulot, puisque la vaccination est gratuite dans notre pays et que jusqu'ici, les tests l'étaient.
Non, la vaccination n'est pas gratuite parce que le gouvernement achète des vaccins et c'est le contribuable qui les paye, donc ce n'est pas gratuit.
Cas-là, rien n'est gratuit, nous sommes d'accord.
Non, rien n'est gratuit, au bout d'un moment, vous finissez toujours par payer. Mais au bout d'un moment, nous, on s'est toujours prononcé de manière très claire et avec beaucoup de délicatesse et de douceur contre le pass sanitaire et contre la vaccination obligatoire. Donc, on a répété 150 fois. Et je pense que c'est important, vu nos positions, de pas partir en tournée et d'avoir, on va dire, une ségrégation de notre public. Voilà.
Douceur, joie et tendresse, ce sont les trois mots que je retiendrai de cet entretien avec vous. Merci beaucoup, merci. En tout cas, d'avoir rendu hommage avec vos mots et avec vos souvenirs à Bernard Tapie, dont vous souhaitez très simplement qu'il puisse être accolé au nom du Stade Vélodrome, on l'a bien compris. Bonne journée, bonne tournée et à bientôt sur l'antenne d'RTL.
Merci pour l'invitation. Je vous souhaite une très belle journée à vous aussi, à toute l'équipe. Au revoir.
Marina Giraudot.
On parlait de Marseille, justement. Oui. Là, on vient de relever la température à 8 heures et on passe à 8 degrés. Et ça fait 5 mois qu'on n'était pas en dessous des 10 degrés. Voilà, ça y est. Ah. L'automne est bien là, hein, avec sa fraîcheur matinale. Parfois, ses brumes et brouillards et ses passages nuageux. Mais aujourd'hui, ça va vite se dissiper et ce sera un vendredi ensoleillé. Si vous avez des nuages, ils vont juste décorer le ciel. Ils résisteront du Massif central au nord des Alpes en remontant vers la Franche-Comté et l'Alsace. Peut-être un peu plus nombreux sur la Corse, où on a quelques gouttes de façon très faible, là en ce moment sur la Haute-Corse, avec un petit peu de vent sur les côtes. Toujours un peu de mistral et tramontane, même s'il souffle moins fort qu'hier. Côté température cet après-midi, 17 à Lille, 19 à Paris, 19 à Limoges et au Havre, 20 degrés à Toulouse et à Bourges, 22 à Marseille et 25 à Toulon. Pour le week-end, eh bien on continue avec ces conditions anticycloniques. Ce sera encore un beau week-end avec du soleil demain. Alors quand même, les passages nuageux vont résister. Alors toujours vers l'Auvergne, le Lyonnais, mais aussi Midi-Pyrénées et Pyrénées. C'est vrai que vous aurez un peu plus de passages nuageux, mais ça se fera sans pluie. Partout ailleurs, du soleil.
Vous parliez à moi.
Mais je vous parle à vous et à
tous les
auditeurs.
J'entends bien, mais comme j'étais pas dans les Hautes-Pyrénées, ça m'a un peu perturbé.
Dimanche, mais vous le savez pas, hein, on vous a réservé une surprise pour ce week-end. Dimanche, ce sera du soleil sur une grande partie du pays. Et même les nuages qui étaient présents samedi des Pyrénées au Massif central et aux Alpes vont un peu régresser. Il y en aura encore, mais ils seront moins nombreux dimanche que samedi. Pour ce qui est des températures, alors on peut avoir quelques gelées le matin, notamment dimanche matin sur le nord-est, c'est possible. Côté température, l'après-midi et samedi après-midi et dimanche après-midi, c'est un peu comme aujourd'hui, entre 17 et 19 degrés en général, 21 à 24 en Méditerranée. Pour le début de semaine prochaine, alors lundi, on aura des nuages qui vont revenir sur la moitié nord, mais sans pluie. Au sud, on va garder du soleil. Mardi, les nuages vont un peu progresser quand même. Ils épargneront le tiers sud, mais ailleurs, il y aura quand même des passages nuageux avec le retour de pluie. Pour le nord-est, mais ce qui sera notable, c'est la baisse des températures. En milieu de semaine prochaine, on va perdre 2-3 degrés.
Merci beaucoup, Marina, de nous avoir accompagnés pendant toute cette matinale avant 9h.
RTL autour du monde.
Nous partons aux États-Unis. C'est le fait divers qui captive le pays depuis un mois. L'affaire Petito, du nom de cette influenceuse de 22 ans, tuée alors qu'elle voyageait en camping-car avec son fiancé. Ce dernier s'est volatilisé. La police et les chasseurs de primes sont à ses trousses. Bonjour Lionel Gendron.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
C'est pas compliqué, les Américains suivent jour par jour cette tragique histoire.
Oui, je remarquais hier dans une rue de New York, CNN était allumé dans une vitrine et pratiquement tous les passants s'arrêtaient quelques secondes pour lire les titres sur cette affaire. Alors pourquoi ils s'y intéressent tant ? Bien parce qu'avec les réseaux sociaux, les Américains sont entrés dans l'intimité du couple. Gabby Petito rêvait de devenir une influenceuse réputée. Elle se mettait en scène, elle et son fiancé, Brian Landry.
Hello, hello and good morning.
Y compris leur voyage pendant lequel elle a été tuée. Et puis, cette histoire tragique questionne sur les réseaux sociaux et ce qu'ils renvoient. Réflexion d'une internaute, beaucoup de couples paraissent géniaux sur Instagram. La vie peut être différente. La preuve avec cet enregistrement pris par la caméra d'un policier le 12 août. Nous sommes dans l'Utah. Un automobiliste a signalé une altercation entre un homme et une femme. C'était le couple Petito Landry. Elle est en pleurs. Raconte que son fiancé doute de ses talents d'influenceuse. Lui explique que c'est une dispute anodine. Les policiers en resteront là.
Est-ce la dernière fois où l'on voit Gabby Petito vivante ?
Non, une semaine plus tard, elle publie une vidéo où le couple sourit et s'embrasse. Son dernier message, c'est un SMS à sa mère. Il est écrit... Pas de réseau. Le 1er septembre, Brian Landry rentre chez ses parents en Floride avec leur van, mais sans Gabby. Le 11 septembre, la disparition de la jeune femme est enfin signalée. La police se rend chez les parents du fiancé, qui est toujours là, mais tous invoquent leur droit constitutionnel au silence et renvoient vers leurs avocats, ce qui fera dire à la police...
Deux personnes sont parties en voyage, une seule est revenue et cette personne ne donne aucune information.
Trois jours plus tard, Brian Landry disparaît. Ses parents et sa sœur disent qu'ils ne savent pas où il est et qu'il n'a pas parlé de Gabby, ce qui paraît étonnant. Parallèlement, le corps de la jeune femme est retrouvé dans un parc du Wyoming. Pour les enquêteurs, il ne serait pas très loin, dans un parc marécageux infesté de serpents et d'alligators. Les policiers l'inspectent toujours. Un célèbre chasseur de primes surnommé le chien s'est même lancé dans la traque. Chaque jour, des centaines de milliers d'internautes donnent leur avis ou des renseignements, souvent faux. Certains viennent même crier sous les fenêtres des parents de Brian Landry, persuadés que ces derniers détiennent la clé du mystère.
RTL Autour du Monde avec Lionel Gendron depuis New York.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h38 et ce matin, Isabelle Choquet, à l'occasion du 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort, vous vous intéressez au dernier bourreau de France.
Mais que va-t-on faire de Marcel Chevalier ? En cet automne 81, la question agite le ministère de la Justice, ou en tout cas ceux qui savent qui est Marcel Chevalier, parce que tout de même, à la chancellerie, le gars n'était pas reçu comme une rockstar. Son interlocuteur quasi unique, c'était le directeur des affaires criminelles qui le recevait tôt le matin ou tard le soir pour que personne ne le croise. C'est ce que raconte une magistrate dans le journal La Croix. Le bourreau, on évitait de le voir d'ailleurs, on ne l'appelait pas bourreau, mais exécuteur national des arrêts criminels. En plus, ce n'était même pas son métier. En vrai, Marcel était imprimeur typographe à Montrouge. Bourreau, c'était en plus. Il est alors le seul habilité à actionner la guillotine, sauf que la guillotine vient d'être mise hors jeu avec cette loi promulguée le 9 octobre. Conséquence immédiate, Marcel Chevalier est au chômage. À l'époque, il touche 3000 francs par mois. Si on tient compte de l'inflation, aujourd'hui, ça ferait environ 1150 euros. Et dans les couloir du ministère, il y a débat. Il y avait deux positions, explique notre magistrate Béatrice de Beaupuis, qui était en poste à la direction des affaires criminelles. Certains juristes estimaient légitime qu'on lui verse des indemnités de fin d'activité, mais au cabinet de Badinter, on estimait qu'on ne lui devait rien et que c'était même un honneur qu'on lui faisait en lui retirant cette tâche inhumaine. Les juristes l'emportent. Marcel Chevalier obtiendra un chèque de 30 000 francs, 11 500 euros. La fin d'une carrière pas très prolifique, en fait. Entre 76 et 81, Marcel Chevalier a exécuté deux condamnés la même année en 77. Mais la guillotine, il la connaît bien, car dès 1958, il était l'exécuteur adjoint d'André Obrecht, le bourreau en chef de l'époque. Sa mission, c'était essentiellement de transporter puis de monter la guillotine. Aux côtés d'André, il a assisté à 40 exécutions. Une véritable entreprise familiale, en fait, car Marcel Chevalier avait épousé la nièce du bourreau au sortir de la guerre. Et c'est comme ça qu'il est entré dans le métier, explique le magistrat Luc Briand, auteur de La Revanche de la guillotine. C'était assez commun, car de tout temps, cette charge de bourreau s'est transmise dans les familles. Cette fonction faisait l'objet d'un certain opprobre social, dit-il. Du coup, quand il cherchait un nouveau bourreau, le ministère ne le criait pas sur les toits. C'était le titulaire de la fonction qui désignait son successeur. le plus souvent son fils ou un membre de la famille. Le cas Marcel Chevalier est réglé, reste une autre affaire délicate à résoudre, que faire de la guillotine. À ce moment-là, elle est entreposée à la prison de Fresnes. Béatrice de Beaupuis se souvient. Chez Badinter, on était prêt à l'envoyer au débarras. Mais Jack Lang, alors ministre de la Culture, estimait qu'il s'agissait d'un élément du patrimoine historique et il voulait l'exposer dans un musée. Et d'ailleurs, dans le dossier, j'ai trouvé une petite note de Jack Lang qui disait « Robert, n'oublie pas de me donner la guillotine ».
Formidable.
Ainsi fut fait. Aujourd'hui, il reste effectivement plusieurs guillotines de l'époque, dont une au Mucem à Marseille. Marcel Chevalier, lui, est mort en 2008 et sa charge avec lui. La mise au chômage du dernier bourreau de France. Article fort intéressant aujourd'hui dans La Croix.
Ben, on est bien content que tout cela ait 40 ans.
Mon Dieu, oui.
Nous sommes d'accord. Merci beaucoup. On se retrouve lundi matin.
Avec plaisir.
Avec bon plaisir, week-end.
Vous êtes comme ça.
Alors vous le savez sans doute, toute cette semaine vous êtes comme ça à explorer les fractures françaises. À 6 mois du premier tour de l'élection présidentielle, aujourd'hui la fracture numérique. Avec vous Samuel Goldschmidt, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à toutes et tous.
Vous vous êtes rendu à Vézelise dans la campagne de Meurthe-et-Moselle pour la tournée du conseiller numérique, c'est bien ça?
Et il vient d'être embauché, c'est ça, par le Secours Populaire qui a lancé le Solidaribus conduit par Christophe Sélan.
Il est tout neuf, en fait c'est un van aménagé, transformé en bureau du coup.
On monte?
Oui. Oui, je peux tourner mon siège complètement pour pouvoir passer d'un poste de conduite à un poste de bureau.
Et son métier, c'est de secourir ceux qui ne comprennent rien aux outils numériques.
Ça peut être du simple, comment je fais pour changer un fond d'écran sur mon téléphone, ma tablette, mon ordinateur, à comment je fais pour déclarer mes impôts en ligne.
Un service tout neuf, mais qui a très vite trouvé ses adeptes.
Alors, je vais ressortir mon petit papier. Moi, ce qui me gêne, c'est que des fois, il me met des favoris, me semble-t-il, que je n'ai pas choisi.
Là, c'est des onglets que vous avez ouverts, qui n'ont pas été fermés.
C'est marqué favoris.
Ouais.
C'est pas favori.
Ça, c'est pas les favoris. Ça, c'est des onglets. Allez-y, appuyez sur le petit carré, là.
Là ? C'est bon, ça y est, j'ai compris.
Et partout où Christophe Sell en passe, il est accueilli avec soulagement. Aujourd'hui, c'est à la permanence du Secours Populaire.
Alors, pour l'enregistrer, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors, justement, fais retour.
C'est pas bon.
Là, tu vas sur OK pour valider.
Là ? Ça a l'air compliqué, oui. Quand on fait une déclaration CMU, par exemple, il faut télécharger sa déclaration d'impôt. Eh bien, c'est pas simple.
On se confie à lui. En permanence, la fracture numérique, il en découvre l'ampleur.
Ça m'inquiète, dans le sens où je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont devoir y aller, qui vont pas avoir le choix de s'y mettre, en fait, et qui ne veulent pas s'y mettre, qui veulent rester sur le papier parce que le papier les rassure.
Voilà une inquiétude concrète qui ne figure pas dans les projets des candidats pour l'instant, Samuel.
Et c'est catastrophique pour Philippe Gillin, le secrétaire général du Secours Populaire dans le département.
On sait très bien qu'ils vont se fixer sur un seul sujet, qui est l'immigration. Moi, c'est pas notre problème. Nous, c'est les gens en général. On les aide parce qu'ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté numérique. Si on fait pas ça, il y a des gens qui resteront sur le carreau et ça, c'est embêtant. Toutes les démarches vont se faire par Internet, ne serait-ce par exemple les gens qui touchent le RSA. Quand ils vont renouveler leur droit, on va leur envoyer un mail. S'ils n'ont pas accès à Internet, ils vont perdre leurs droits. Et ça, c'est intolérable.
Carmela est une des bénévoles de l'épicerie solidaire. Elle-même est concernée et consternée par ce vide.
C'est quelque chose de très, 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 très important. On pense pas du tout aux personnes d'un certain âge qui vraiment n'y connaît rien, rien, rien.
Vous entendez les candidats s'exprimer sur ce thème-là, par exemple ?
Je vais vous dire que ça me fait rire parce que non, j'entends personne. Je ne sais même pas s'ils se posent la question.
Et la fracture numérique n'a pas d'âge. Le conseiller itinérant voit par exemple des jeunes gens rois de TikTok et de Snapchat, mais incapables d'utiliser le site de leur collège correctement.
La fracture numérique au cœur des campagnes et pas au cœur de la campagne. C'était Vous êtes comme ça à Vézelise, en Meurthe-et-Moselle. On va retrouver dans un instant Laurent Gérard. Et ne manquez pas la recette de cheesecake signée Cyril Lignac ce matin.
RTL Matin.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour mademoiselle.
Bonjour monsieur Calvi. Bon. Bonjour souverain pontife.
Hola Soliad. Salve Filius Meus, Ivus Calvinus. Il est sympa. Les matines, Ivus Calvinus. C'est décontrasté. C'est pas comme dans ma boîte. Ah, c'est tendu. Vous avez vu votre cardinal, comment qui s'appelle déjà, celui qui a rien vu, rien entendu. Barba Papa.
Non, Barbarin.
Oui, c'est ça. Il m'énerve. Et il doit aussi m'occuper de l'archevêque Luigi Ventura. C'est lui qui met les mains aux fesses.
Ah,
il ne peut pas être partout comme mes petites souris, tac, tac, tac. Où elles sont encore passées? Vous ne les avez pas vues? Encore ratées?
Alors, beaucoup ont pensé que vous alliez faire changer les choses.
Mais puisqu'il vous dit qu'il ne fait pas des miracles, elle m'énerve. Hein.
Désolée.
Quand il fait de la magie, même un tour de cale, ça ne marche pas. Ça m'énerve. Vous avez lu le livre Sodoma?
Je suis en train.
Oui. Les grands secrets de l'homosexualité au Vatican. Il faut courir très vite dans les jardins du Vatican.
Vous étiez au courant de tout ça ?
Pas du tout. Sergent, quand j'ai découvert ces livres, j'ai supprimé les abonnements à Tétou et à Pink TV, à tous les cardinaux.
Bien.
Il n'est pas là, Julien Courbet ?
Il n'est pas loin.
Parce qu'il n'y a vraiment plus que lui qui pourrait m'aider, là.
Oui.
Après le succès de son album « Bruel chante Barbara », notre ami Patrick a décidé, suite au scandale, de sortir un nouvel album intitulé « Bruel chante Barbarin », avec notamment le tube « L'homme en noir ».
Ah bonjour. Où es-tu une nuit ? Près d'un lac. Je m'étais endormi. Quand soudain, en levant son Marcel et en slip léopard, surgit un homme en noir, lentement, soutane déployée.
Oh non,
lentement, il la fit tournoyer. Près de moi, il posa son missel, comme tombé du ciel. L'abbé vient me masser.
Après l'homme en noir, Patrick Bruel reprend aussi une petite cantate.
Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite de sous les droits. Une petite branlette et sans signe de croix. Quelle offense, Barbarin, il me le pardonnera.
Merci Patrick, je crois qu'on a bien compris l'esprit de cet album qui traite d'un sujet quand même très délicat.
Mais attends, c'est pas fini, attends, putain, c'est une copie énorme, il y a aussi ce chef d'œuvre, Il tâtait des petits louveteaux. Vous êtes prêts ?
Oui.
Il tâtait des petits louveteaux, les palpait bien comme il faut. Barbarin faisait semblant de ne pas être au courant.
Merci Patrick. Je crois qu'on s'est fait une bonne idée de cet album événement.
Oui.
Et vous avez bien fait le tour de la question.
Putain, toi aussi t'es dans le déni, mais tu m'empêcheras pas de chanter une dernière, un classique, écoute ça.
Oui.
Dis, quand reviendras-tu ?
Voilà.
Dis, j'ai trop mal.
Voilà, merci Patrick. Merci.
Zut, flûte et crotte de bique.
Oh. Mais, bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Stéphane.
Mais que nous vaut le plaisir ?
On me moque, on me rudoie, on me houspille, j'en ai ras la frisette.
Mais qu'est-ce qui vous arrive Stéphane ?
Je subis la vindicte populaire. On me critique sur ma proximité avec notre bon roi Emmanuel et notre belle reine Brigitte. Je serai, dit-on, le favori de la cour. C'est faux, mensonge et baliverne.
D'autant que votre mission sur le patrimoine est une mission bénévole.
Oui. Parfaitement. Je ne gagne pas un écu avec cette mission. Bon, c'est vrai que parfois, pour me remercier, notre bon roi Emmanuel me fait l'honneur de m'inviter à dîner. Mais peut-on considérer cela comme un salaire ?
Mais bien sûr que non, Stéphane. Et la table est bonne à l'Élysée ?
Avec le soin que je mets à l'adresser, j'espère bien.
Attendez, vous n'êtes pas l'un des convives ?
Que nenni, notre bon roi me fait le privilège de le servir.
Hein ?
Je mets le couvert et je débarrasse avant de faire un bras de ménage et de cirer les escarpins de madame. Mais rassurez-vous, son Altesse sait être généreuse. Parfois, j'ai droit à quelques restes.
Ah, comment ça ?
On me jette une cuisse de poulet ou un bout de fromage que je ne sais quel ministre ou chef d'État a à peine grignoté. Dieu que Messire est bon avec moi.
Pourtant, la semaine dernière, vous avez dit dans la presse qu'il vous arrivait d'être ferme et sans concession avec Emmanuel Macron.
Mais bien sûr, oui. L'autre jour, ouais. Tandis que sa seigneurie utilisait mes dents pour gratter un des tickets de mon loto du patrimoine, afin qu'il ne salisse pas ses ongles, je me suis fâché tout rouge. Je lui ai dit, les yeux dans les yeux, je ne suis pas votre vassal, votre Altesse. Et toc.
Non, donc, et alors ?
Alors il a abdiqué devant ma colère. Il m'a dit, mon bon Stéphane, demain j'organise une soirée cassoulet à l'Elysée, vous en serez l'élément principal.
C'est-à-dire ?
Le faillot.
Dans Les Enfants de la télé sur France 2, Jean-Baptiste Guégan a été ému aux larmes après avoir reçu un témoignage de sympathie de l'héroïne de son enfance, Hélène Rollès.
GB, je m'appelle GB, je suis un garçon comme les autres.
Oui. GB. Oui. Bonjour Jean-Baptiste Guégan. On a été étonné d'apprendre que votre idole de jeunesse, c'était Hélène, d'Hélène et les garçons. On pensait que c'était plutôt Johnny Hallyday.
Ben oui. Qui ça ? Je ne connais pas, moi, ce Johnny Hallyday.
Mais enfin, voyons, Jean-Baptiste, vous êtes son sosie vocal.
Ah bon ?
Oui.
Vous trouvez ?
Ben oui.
Pourtant, je vous assure, c'est vraiment ma voix, hein, ma voix que j'ai depuis l'an 2000. Mm. C'est-à-dire que depuis que je suis en âge de m'acheter des slips. Oh, les slips de mille.
Oui, c'est ça. Revenons plutôt à votre idole, Hélène Rollès.
À chaque fois que j'entends son nom, je suis tout émotionné, j'ai les larmes aux yeux, que j'ai, ça me bouleverse les filles.
Bah, remettez-vous, Jean-Baptiste.
Et du coup, j'ai décidé de sortir un nouvel album en hommage à toutes mes idoles d'enfance, de quand j'étais petit comme 5 pommes. Il y aura donc un duo avec mon ami Jean-Baptiste Gay Casimir.
Non.
Il est à côté de moi.
Non, c'est pas possible.
Il est à côté de moi. Je vous le passe.
Ah, mais passez-les-moi.
Oh, bonjour, ma petite demoiselle Jade.
Oh, bonjour, Jean-Baptiste Gay Casimir. Votre voix me rappelle quelqu'un.
Oui. Ah bon? Vous trouvez? Pourtant, c'est vraiment ma voix.
Oui.
On va vous faire notre duo avec Jean-Baptiste Guégan. Ça parle d'une île merveilleuse avec plein d'enfants et de monstres gentils. Vous êtes prête?
Ah oui, je crains le pire, mais je suis prête. Allez-y.
Le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux des enfants heureux. Des monstres gentils, des tapatis.
Mais comme c'est très beau. Ah, merci Jean-Baptiste Guégan.
Attendez, parce que sur mon album d'idole, d'idole du jeune, d'idole du jeune GB, il y a aussi un hommage à celui qui m'a tant inspiré.
Qui est Johnny?
Non, Jordi.
Ah,
Jordi.
3, 4. Dire d'être JB, dire d'être JB, je m'appelle JB, j'ai 30 ans et je suis sosie. Dire d'être JB, dire d'être JB.
Ouais, c'est dur pour nous aussi. Oui, voilà, merci Jean-Baptiste.
Fais passer, patati, patata, wow, rock'n'roll. Dire d'être JB, dire d'être JB.
C'est le vrai, ça? Vous vous souvenez, Isabelle?
Oui, très bien.
Bah oui, mais je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Là, je trouve que le son est presque moderne. Je dois avoir pris un sacré coup de vieux. Allez, dans quelques instants, on va retrouver la recette de Cyril Lignac. Merci à toute l'équipe. Vous la retrouvez, bien entendu, sur le site rtl.fr. Et puis, vous savez que Laurent est aussi dans nos matinales le week-end sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour, c'est Lignac.
Bonjour.
C'est Sixtine de Paris, quel joli prénom, qui nous écrit ce matin. Je voudrais réaliser mon premier cheesecake.
Alors, le cheesecake, alors là, il y a deux écoles.
Ah.
Soit on le cuit, la recette que je vais vous donner, soit on le fait cru.
Ah.
Alors, vous avez le choix, M. Calvi. Cru ou cuit?
Moi, je dirais plutôt le cuire, mais bon.
Ah oui,
oui. Voilà. Notre camarade est d'accord avec vous.
Alors, on va le cuire. Alors, on va préparer une pâte sucrée. Et ensuite, on va les mietter, on va le mélanger avec du beurre pour encore plus le rendre croustillant. On tapisse le bas du moule.
C'est une pâte sablée ?
Oui, c'est une pâte sablée, dans lequel je brise après, dans lequel je rajoute un petit peu de beurre fondu, et que je mets au fond et que je recuis pour que ce soit encore plus croustillant.
Dis-moi, je voudrais pas vous perturber, mais si vous brisez une pâte sablée, c'est une pâte sablée ou c'est une pâte brisée ? Ah bon, nous lancerons ce dossier une autre fois. Voilà.
Une pâte sablée que je regarde. Après, je prends un saladier, je prends 350 grammes de fromage, vous savez, le Philadelphia, le fromage très crémeux, que vous adorez, avec 30 grammes de crème liquide, 100 grammes de sucre, 2 œufs et un jaune. Paf. Là, on mélange, paf, on verse dans le moule, et là, on va cuire. Et on cuit 45 minutes à 85 degrés.
Oui.
Alors, on peut aussi rajouter un petit peu de zeste de citron, on peut rajouter de la fleur d'oranger, on peut quand même le pimper un peu pour...
Oui, bien sûr, un petit peu de peps.
Voilà,
pour changer. À la limite, on dirait pourquoi pas un peu de basilic, même.
Voilà.
Non, mais moi, je sais pas.
Et on peut...
Comme j'aime pas ça et que je le mangerai pas, de toute façon, ça n'a pas d'importance.
Oui. On peut mettre n'importe quoi, monsieur
Calvi. Je suis prêt à mettre n'importe quoi dedans.
Et alors après, on le cuit au four, et quand il sort et qu'il est tiède, on peut en effet faire une petite salade de fruits avec du basilic, de la fleur d'oranger. Ça marche très très bien avec des, c'est la pleine saison maintenant, des agrumes, avec des suprêmes d'orange, de pamplemousse. Et là, on se fait une petite salade d'agrumes pleine d'énergie, avec un bon cheesecake, comme il faut.
Mais voilà.
Et là, on va se régaler.
Bon, écoutez, notre Sixtine est absolument ravie. T'es d'accord, hein, plus c'est gras, plus c'est bon, hein, vieux.
Ouais.
Bon. J'aime beaucoup notre Sixtine. Allez, l'intégralité des étapes de cette recette sont à retrouver comme chaque jour sur le site rtl.fr. À lundi, cher Cyril.
À lundi.
Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
L'essentiel de l'actualité avec Dominique Tenza.
Et cette enquête ouverte à l'école centrale Supélec après la révélation d'une centaine de faits de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol. Enquête qui fait suite au résultat d'un questionnaire distribué par la direction de cette prestigieuse école d'ingénieurs. Sur les 2300 élèves interrogés, 28 ont rapporté des faits de viol. Des dizaines d'autres se disent victimes d'agressions sexuelles. L'hommage à Samuel Paty, ce sera le 15 octobre, vendredi prochain. Dans une note au recteur hier, Jean-Michel Blanquer a demandé à ce que tous les établissements puissent honorer la mémoire du professeur. Il y aura deux temps, d'abord un moment de recueillement, puis un espace d'échange entre élèves et enseignants. Chaque établissement étant libre de s'organiser comme il le sent. Une prime de 1000 euros pour les chômeurs de longue durée qui choisissent une formation dans les métiers qui recrutent, annonce hier de la ministre du Travail Elisabeth Borne. La prime sera versée en deux fois, au début et à la fin de la formation. Après l'hommage au Vélodrome hier, les obsèques ce matin de Bernard Tapie, les supporters l'accompagneront une dernière fois du Vieux-Port jusqu'à la cathédrale de la Majorque où seront célébrées ses funérailles à 11h. Il sera ensuite inhumé au cimetière de Mazargues. 11h, c'est aussi l'heure à laquelle sera annoncé tout à l'heure le prix Nobel de la paix. 329 candidatures proposées cette année. Et puis la France face à l'Espagne, ce sera dimanche soir à 20h45 en finale de la Ligue des Nations, match diffusé sur M6 et sur RTL. Hier, les Bleus ont décroché leur place après une remontada spectaculaire, menée 2-0 à la mi-temps. Ils l'ont finalement emporté 3-2, but de Benzema et de Théo Hernandez et pénalty d'Mbappé.
Merci beaucoup Dominique, on se retrouve lundi matin avec grand plaisir. Il est très exactement 9h.